Vous êtes sur RTL.
Et à vous et à l'équipe des Petits Matins. La vaccination et nos écoles sont au cœur de cette matinale d'information. Nous allons d'abord partir en Amérique dès 7h15 avec notre brigade. Les chiffres sont absolument ahurissants. Presque 150 millions d'Américains ont d'ores et déjà été vaccinés. On vaccine même les plus de 16 ans, dans certains États. Tous les détails avec Lionel Gendron, notre correspondant. Et puis nous donnerons ensuite la parole au spécialiste des États-Unis, Jean-Éric Brana. En France, le débat se concentre désormais sur la fermeture ou non de nos écoles. Alba Ventura reçoit ce matin le professeur Antoine Flahault, épidémiologiste, alors qu'une fois de plus, on attend une prise de parole du chef de l'État, 7h40, pour retrouver Alba et son invité. Enfin, nous parlerons aussi des aspects positifs et inattendus de la crise sanitaire. L'épargne des Français prend des allures d'Himalaya. Alors, qu'allons-nous en faire? Toutes les explications avec notre brigade et Éric Vanier à 8h20, et puis l'analyse de l'économiste Éric Ayer, directeur de l'OFCE et membre du Haut Conseil des Finances Publiques. Nous sommes le mercredi 31 mars 2021. RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, Emmanuel Macron à l'heure des choix face à l'aggravation de l'épidémie.
Oui, conseil de défense ce matin. L'épidémie progresse, faudra-t-il reconfiner plus strictement alors qu'une partie des Français exprime leur lassitude? C'est ce qu'on a entendu en tout cas hier à Lyon. Une fête clandestine a eu lieu sans que les policiers puissent intervenir. Vous le disiez Yves, c'est l'une des conséquences de la crise sanitaire et des confinements successifs. Les Français ont beaucoup moins dépensé et beaucoup épargné. Le gouvernement veut faciliter les donations, notamment donations familiales défiscalisées. Dans ce journal également, un examen qui passe mal à l'école de police. Les instructeurs, pour un cas pratique, avaient baptisé les voyous Gérald Castex et Nicolas Sarkozy. Devinez quoi? Contrairement à vous Yves, ça n'a pas fait rire le ministre de l'Intérieur. Le football, l'équipe de France est en Bosnie cet après-midi pour confirmer après la victoire face au Kazakhstan.
La politique avec Olivia Bost dès la fin du journal.
Et quand est-ce qu'on préserve la démocratie, les élections de l'épidémie?
A tout de suite Olivier.
RTL Matin.
Faudra-t-il reconfiner plus strictement? Faudra-t-il fermer les écoles ou les maintenir ouvertes coûte que coûte? Emmanuel Macron va devoir trancher alors que se tient ce matin un nouveau conseil de défense. Parmi tous les paramètres à prendre en compte, il y a cette lassitude d'une partie des Français. Exemple avec ce qui s'est passé hier soir à Lyon, une fête clandestine qui s'est tenue sur les quais de Saône, Frédéric Perruche.
L'invitation lancée sur les réseaux sociaux a très vite attiré des centaines de jeunes qui ont dansé, chanté, beaucoup bu, agglutinés sur les quais encore ensoleillés, sans masque pour la plupart.
J'ai vu une story sur Instagram qui a dit qu'on pouvait venir en soirée. Du coup, bah, on profite tout simplement.
Pas de masque.
Pas de masque. Logiquement, les gens boivent. Du coup, bah, on enlève un peu le masque et voilà. C'est complètement irresponsable, mais ça fait un an et demi qu'il n'y a aucune soirée. Du coup, on lâche prise parce que les gens n'en peuvent plus. On est confinés.
C'est assez irresponsable, mais on en a besoin.
La fête sauvage a duré près de 2 heures. Célia y a participé sans remords.
Voilà, c'est compliqué, il fait beau, on en a marre et voilà. Beaucoup de gens prennent des risques en allant faire les soldes dans les grands magasins. On pense qu'il y a d'autres choses qui font prendre des risques aussi. Hein.
La police a surveillé de loin le rassemblement sans intervenir pour ne pas mettre en danger les manifestants massés à proximité de la Saône. Mais les images vidéo seront exploitées pour tenter d'identifier et sanctionner les organisateurs.
Reportage de Frédéric Perruche. Malgré tout, le ministre de l'Intérieur a voulu adresser un message de fermeté. À nouveau, les contrôles seront renforcés à partir de demain, jeudi, veille de week-end de Pâques, pour faire respecter notamment l'interdiction de déplacement entre régions classées en ce moment en rouge.
Et bien entendu, Olivier, en attendant de savoir s'il y aura de nouvelles restrictions, la priorité reste la vaccination.
Oui, l'accélération de la campagne se met en place. La France, par exemple, va recevoir 2 millions de doses de Pfizer par semaine durant tout le mois d'avril. De quoi effectivement monter en puissance, mais pour tenir cet objectif de 20 millions de premières injections d'ici la mi-mai, il faudra être un peu meilleur le week-end, Sophie Orange.
C'est sûr, c'est vrai que les chiffres du dimanche ne sont pas bons, 50 000, 60 000 injections seulement, alors que dans la semaine, on approche les 400 000 par jour. Manque de doses, manque de bras pour vacciner, sans doute un peu des deux, mais on revient de loin, puisqu'en janvier et février, les centres étaient fermés le week-end. Nous avons une grande marge de progression, reconnaît le ministère de la Santé. Le rythme devrait changer dans quelques jours. 2 millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech vont arriver chaque semaine en avril. Elles vont être utilisées 7 jours sur 7, promettons avenue de Ségur. De nouvelles professions médicales vont pouvoir vacciner, dentistes, vétérinaires. 250 000 personnes supplémentaires au total pour réaliser 2 000 injections par jour dans les méga-centres contre 500 à peine aujourd'hui. Le ministère de la Santé est déjà en train d'anticiper un autre problème, les différents jours fériés du mois de mai, avec un objectif: pas de pont pour la vaccination.
Merci beaucoup Sophie Orange. On rappelle ce chiffre à ce jour. 8,3 millions de personnes ont reçu une première injection et presque 3 millions de Français ont reçu les deux doses. La crise sanitaire a retardé de plus d'une génération le temps nécessaire pour espérer parvenir à l'égalité homme-femme. C'est une étude du Forum économique mondial qui pense qu'il faudra compter 135 années avant de parvenir à la parité à l'échelle mondiale. La pandémie a montré à nouveau que les femmes avaient le plus souvent que les hommes, sacrifié leur vie professionnelle pendant les confinement pour, par exemple, garder les enfants.
Et puis, c'est l'une des conséquences de la crise sanitaire depuis un an. Les Français épargnent de plus en plus.
Oui, et mis bout à bout, ça représente 130 milliards d'euros épargnés en 2020. La Banque de France pense que ça pourrait représenter 200 milliards en 2021. C'est un enjeu colossal. Le pays a besoin de cet argent pour se relancer. Alors, il y a ceux qui anticipent déjà de dépenser un peu plus quand on aura retrouvé une vie un peu plus normale. Et le gouvernement veut aussi diminuer la fiscalité pour les dons au sein de la famille. Ce couple de retraités que vous avez rencontré, Dimitri Ramelot, attend les mesures avec impatience.
Oui, à 78 et 80 ans, fort de 4500 euros net de retraite, ce couple fait régulièrement des dons strictement encadrés à leur fils.
Les derniers gros dons que nous avons faits, c'est suite à la vente d'une maison familiale. Nous avons donné 100 000 euros.
Et les deux petits-enfants ont eu de quoi se payer le permis de conduire et s'acheter une voiture, impensable de ne pas aider les jeunes générations.
On a épargné en ce sens aussi, en se disant que dès lors qu'ils accèdent à être étudiant, il y aura forcément des moments difficiles pour eux. Et donc, si nous en avons les moyens, il faut le faire.
Et depuis le premier confinement, le couple de retraités a pu faire d'encore plus larges économies, toutes redistribuées.
On ne va pas au restaurant, on ne va pas au cinéma, on n'a pas voyagé. Donc, c'est de l'argent économisé également. Peut-être 3 000 euros.
Et le dispositif du ministre de l'économie tombe à pic, car la vente prochaine de la deuxième maison devrait permettre de continuer à gâter la famille.
Il faut que nous sachions exactement les conditions, parce qu'ayant travaillé toute une vie, je ne souhaiterais pas laisser une grosse part à l'État.
Et le couple surveille chaque jour les annonces de Bercy afin de ne pas perdre de temps pour les prochains dons.
Reportage de Dimitri Ramelot. Le gouvernement va aider les magasins pénalisés par le reconfinement qui n'ont pas pu vider leurs stocks. Annonce hier du ministre des PME Alain Griset sur RTL. 35 000 magasins d'habillement ou de sport toucheront une enveloppe correspondant à 80% de l'aide qu'ils ont touchée en novembre dernier.
Dans un tout petit instant sur RTL, le ministre de l'Intérieur n'a pas exactement, je dis bien exactement, le même humour que certains policiers instructeurs de Toulon. Restez avec nous, vous allez bien rire.
RTL Matin.
7h08, la suite du journal d'Olivier Bois. L'humour des policiers toulonnais n'a pas fait rire tout le monde, Olivier.
Non, et pourtant, pour recruter de nouveaux policiers à la BAC, les chefs avaient concocté un cap pratique, disons une affaire type pour tester les connaissances des candidats, un grand classique. Mais l'examen, effectivement, n'a pas du tout fait rire le ministre de l'Intérieur, Étienne Baudu.
Ah, il faut dire que l'examen en question n'est pas piqué des hannetons. Un examen tout à fait officiel, avec pour thème la résolution d'un PV d'interpellation. Un scénario tout à fait imaginaire est donc proposé à la dizaine de candidats. Vous êtes le brigadier-chef Dupont-Moretti, est-il écrit. Vous êtes en patrouille avec les gardiens de la paix Darmanin Jean et Castex Gérald. Vous constatez que deux individus arrachent le sac à main d'une jeune fille. Vous parvenez à les interpeller. Le premier déclare se nommer Sarkoza Nicoli et il est porteur d'un couteau à cran d'arrêt. Le second s'appelle François Fillonne et dissimule une sacoche volée au nom de Madame Bette en cours. Alors évidemment, toute ressemblance avec des personnages existants serait purement fortuite. Mais Place Beauvau, ce trait d'humour irrévérencieux et un peu potache, c'est vrai, n'a pas été apprécié et le policier risque une sanction disciplinaire. Mais attention, avertit Bruno Bartosetti du syndicat Unité Police SGP-FO, le capitaine ne doit pas seul porter le chapeau.
Ce qu'on peut regretter, c'est que normalement, ce capitaine est sous le contrôle d'un directeur. Donc, soit le directeur a validé le thème, soit ça lui est passé à côté, et là aussi, ça peut être gênant.
Et l'histoire ne dit pas si les candidats se sont bien amusés, et s'ils ont été tous reçus ou non.
Voilà pour cette histoire qui vous a plu, Yves. Oui. Merci Étienne Baudu, correspondant RTL. Dans les Bouches-du-Rhône, sachez que la réforme des fourrières, après avoir été testée et généralisée à partir de demain dans toute la France, il faudra être plus rapide pour récupérer sa voiture. Ce sera désormais 15 jours maximum. Sinon, il y aura un risque soit de destruction, soit de retrouver sa voiture sur un site de vente.
On passe au sport et au football. L'équipe de France affronte ce soir la Bosnie.
Oui, c'est le troisième match des éliminatoires en vue du Mondial 2022. Les Bleus devront confirmer après leur victoire face au Kazakhstan, Philippe Sanfourche.
Oui, un dernier match à enjeux multiples, à tiroir, à commencer par cet objectif Coupe du Monde 2022. En bon capitaine, Hugo Lloris mobilise ses troupes pour un dernier coup de collier.
Il faut se faire violence malgré les circonstances, les heures de voyage en juin et j'espère juillet, il y aura d'autres objectifs. C'est important de finir cette parenthèse qualification sur une bonne note.
À titre individuel aussi, Kylian Mbappé par exemple doit rebondir après deux sorties mitigées, comme l'admet Didier Deschamps.
Lui, le premier, il ne peut pas être satisfait de ce qu'il a fait. Évidemment, il a envie de marquer, faire marquer, mais non, je ne le sens pas du tout affecté.
Évidemment, l'attaquant du PSG n'a pas à gagner sa place pour le prochain Euro. A priori, Benjamin Pavard non plus, mais le défenseur du Bayern reste pleinement investi.
On se donne tous à fond, donc après ça sera le choix du sélectionneur, mais on ne sait jamais, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit.
Le meilleur moyen étant encore de remporter ce dernier match avant la liste de mai, comme l'équipe de France a su le faire lors de ses 7 dernières rencontres à l'étranger.
Merci beaucoup Philippe Sanfourche, on vous retrouve ce soir au stade à Sarajevo, coup d'envoi à 20h45 et ce sera une soirée spéciale RTL Foot de 20h à 23h avec Eric Silvestro. Le match est également diffusé sur M6. Et puis information importante également pour la Ligue des Champions, les quarts de finale entre le PSG et le Bayern Munich. L'attaquant vedette du club allemand Robert Lewandowski s'est blessé, il est forfait pour les deux matchs aller et retour les 7 et 13 avril prochain. Et puis juste un mot pour finir, oui. Yves, loin de moi l'idée de voler le travail de Jean-Mathieu Pernin, mais il y a une information hier qui a été reprise un peu partout, on apprenait avec un peu de surprise que Volkswagen avait l'intention de se rebaptiser aux États-Unis Volkswagen pour symboliser sa volonté de privilégier l'électrique, ça a surpris un peu tout le monde, mais l'info a été reprise parfois dans des journaux sérieux. C'était un poisson d'avril, figurez-vous, ils avaient pris un peu d'avance. Le groupe allemand, c'est demain, le 1er avril, Yves, pour votre blague annuelle. Je ne sais pas si vous êtes adepte du genre.
Non, ça m'a passé hein, avec les années. Les courses, elles ont lieu à Marseille-Borély.
Et les pronostics de Dominique Cordier, sans blague dedans, le 11, le 5, le 4, le 2, le 3, le 13. Hélas, la dernière minute, c'est le 4, Elliott Dambry.
C'était le journal d'Olivier Bois. La politique à 7h12 avec Olivier Bosse. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Les élections régionales pourront-elles se dérouler en juin? Les partis politiques doivent trancher et vous allez nous dire pourquoi c'est un sujet effectivement important. Olivier.
Alors, évacuons tout de suite un argument que j'ai entendu dans la bouche de plusieurs responsables politiques ces derniers jours et ces dernières semaines. Les Français n'ont pas la tête aux élections. Où sont variants? Personne ne m'en parle sur le marché le samedi matin. Ou encore, ça n'intéresse que les journalistes.
Ben voyons.
Bon, admettons le dernier argument. Mais quand nous vous dirons que nous ne savons pas si la présidentielle pourra avoir lieu l'année prochaine, alors là, je pense que vous allez réagir tout autrement. Les élections, c'est un rendez-vous démocratique, ce n'est pas seulement un sujet de conversation.
Mais pourquoi avez-vous des doutes sur la présidentielle elle-même?
Si la situation sanitaire n'est pas satisfaisante, et franchement, en ce moment, on n'en sait rien, on fait comment? Comme les régionales et les départementales, est-ce que nous allons repousser la date? Comme le note avec un peu de perfidie le Conseil scientifique dans le rapport que lui avait commandé le gouvernement, de nombreux autres pays européens ont organisé des élections en temps d'épidémie. Le Portugal, l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas. Vote par anticipation, par correspondance, à l'extérieur et même à vélo chez les Hollandais. Mmh. Et en France, comment allons-nous faire? Eh bien, rien n'a changé. C'est pire que ça. Toutes les innovations pour faire évoluer les techniques de vote ont été rejetées ces dernières semaines. Les idées de nos voisins ont été portées par différents groupes politiques et pas seulement des groupes de l'opposition. Il y avait notamment le Modem. Oui. Mais elles n'ont pas passé la barrière du gouvernement.
Pourquoi autant de réticence?
Alors, je n'ai que deux hypothèses. Le bureau des élections au ministère de l'Intérieur serait un état dans l'état, m'a expliqué un ministre. C'est l'administration qui n'en ferait qu'à sa tête et qui serait suffisamment puissante pour résister à toutes les volontés politiques. Avec eux, rien ne serait jamais possible, un ultra-conservatisme bureaucratique. Soit. L'autre hypothèse, un soupçon, pas tout à fait dénué de preuves, et la très mauvaise volonté de l'exécutif dans cette affaire. Souvenez-vous, en mai 2020, il y a presque un an, il était passé par la tête de l'Élysée de repousser les élections régionales, déjà après la présidentielle. Oui. Ce n'était pas le moment, en plein plan de relance, de se mesurer. La reconstruction était alors prioritaire. Puis, il y a eu la deuxième vague, et cette idée a ressurgi de repousser encore ces élections régionales et départementales. Finalement, des mois et des mois plus tard, nous en sommes au même point et avec les mêmes tentations. Faute d'avoir modernisé le processus de vote et faute d'envie d'aller aux urnes, la démocratie se retrouve en ballotage défavorable.
Merci beaucoup Olivier Bost. Ce matin, Alba Ventura reçoit le professeur Antoine Flahaut, épidémiologiste et professeur de santé publique à l'Université de Genève. Au programme, bien entendu, la fermeture ou non de nos écoles en attendant une éventuelle prise de parole du président de la République. Dans un instant, nous allons prendre la direction des États-Unis pour retrouver notre correspondant à New York, Lionel Gendron. Et nous serons avec Jean-Éric Brana, spécialiste de ce pays, pour tenter de comprendre les raisons de l'incroyable succès de la campagne de vaccination sur place. A tout de suite avec notre correspondant.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h17, nous partons tout de suite aux États-Unis. Déjà près de 150 millions de vaccinations, vous avez bien entendu le chiffre. Une étape hier à New York, ancien épicentre mondial de l'épidémie. Les plus de 30 ans, sans exception, sont éligibles pour recevoir le précieux sérum. On retrouve à New York Lionel Gendron, notre correspondant. Bonjour Lionel.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Les Américains veulent que les jeunes adultes soient vite vaccinés, car sur le front de l'épidémie, les nouvelles sont moins bonnes ces tout derniers jours, Lionel.
Oui, c'est contre-intuitif, on vaccine à toute vitesse, mais les contaminations augmentent 13% en plus ces derniers jours. On craint même l'arrivée d'une quatrième vague ici. Une hausse des cas en partie due aux plus jeunes, déjà parce qu'ils n'ont pas été vaccinés, mais aussi parce que la vigilance a baissé. Alors, on a vu des milliers d'étudiants en Floride ces dernières semaines, par exemple, célébrant le Spring Break, les fameuses fêtes de printemps. Les jeunes ne sont pas les seuls fautifs. Certains aéroports sont bondés, il y a beaucoup de repas entre amis, les restaurants sont ouverts, il faut le rappeler, ici, et plusieurs gouverneurs ont levé l'obligation de porter le masque. En fait, beaucoup d'Américains pensent que la partie est gagnée, ce n'est pas le cas. Du coup, les autorités sont inquiètes et accélèrent au maximum. Le vaccin est même accessible aux plus de 16 ans dans bientôt 39 États aux États-Unis.
Aux plus de 16 ans dans 39 États. Alors, le prochain grand défi, c'est de vacciner en fait les enfants et les ados.
Oui, alors je vous parlais un instant du vaccin pour les plus de 16 ans. Il faut savoir que pour les 16-18 ans, seul le vaccin Pfizer est autorisé pour l'instant. Vacciner les enfants et les adolescents, c'est une étape importante parce que même si tous les adultes étaient vaccinés, il resterait un quart de la population qui ne l'est pas et qui peut propager le virus. Les grands laboratoires ont débuté des tests, mais ils ne veulent prendre aucun risque et avoir plusieurs mois de recul, plus en tout cas que pour le vaccin pour les adultes.
Alors on a compris que les États-Unis élargissaient le cercle des personnes éligibles. Ils peuvent le faire car ils ont en fait un stock faramineux.
Oui, le gouvernement a distribué jusqu'à présent 190 millions de doses. Si vous prenez juste cette semaine, ce sont 33 millions de doses qui ont été distribuées. Alors, tout n'est pas comparable, mais pour avoir une idée, à ce rythme, en deux semaines, on toucherait la population française. Alors, il faut rappeler que Pfizer, associé à BioNTech, Johnson & Johnson et Moderna sont des entreprises américaines. Washington a fait jouer la priorité nationale. Et d'ici à cet été, 700 millions de doses seraient sécurisées, largement de quoi vacciner 330 millions d'Américains. Et en effet, quand on n'a pas de soucis de stock, tout est plus facile.
En effet, merci beaucoup Lionel Gendron, correspondant d'RTL à New York. Bonjour Jean-Éric Brana.
Bonjour Yves.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL, vous êtes spécialiste des États-Unis. Votre dernier livre s'intitule Joe Biden, l'homme qui doit réparer l'Amérique, aux éditions du Nouveau Monde. Dites-moi Jean-Éric Brana, pour un mort vivant de 78 ans, le moins qu'on puisse dire c'est que le président Biden est en pointe sur la vaccination.
Oui, quelle entrée en matière. Effectivement, c'est vrai qu'on n'avait pas parié là-dessus. Et on avait même entendu le contraire pendant la campagne. Vous avez raison de le soulever. C'était effectivement le thème de Donald Trump qui expliquait qu'il ne se passerait rien avec Joe Biden et qu'en particulier, la vaccination ne pourrait pas fonctionner, que les démocrates étaient des incapables. Ça dépassait largement la personne de Joe Biden. Mais en réalité, c'est ni les démocrates ni les républicains. C'est l'ensemble du pays qui s'est mobilisé. Et c'est surtout les décisions qui ont été mises en place qu'on reprochait à Donald Trump de ne pas prendre, à savoir de déclarer un état d'urgence, de mettre en place la FEMA, qui est un organisme d'urgence, de secours d'urgence aux États-Unis, de déployer l'armée qui fait la logistique, de mobiliser les stades qui permettent de faire effectivement ces immenses vaccinodrones dont on a vu les images un peu partout sur toutes les télés du monde. Et c'est ça qui fait le succès de cette vaccination.
Alors, les chiffres sont étourdissants. Objectif 100 millions de vaccinés en 100 jours. En fait, on est environ à 80 jours de mandat et déjà 150 millions d'Américains. Américains vaccinés, on l'évoquait avec Lionel Gendron à l'instant. On va peut-être rappeler aussi par honnêteté que cela est dû aussi au pari de Donald Trump qui a mis des milliards de dollars sur la table pour obtenir les vaccins.
Alors, on peut dire ça par honnêteté si vous voulez, mais s'est contredit par les plus proches de Donald Trump, puisque Anthony Fauci, qui était le responsable de la task force coronavirus, a expliqué que c'était lui qui avait pris la décision et que Donald Trump n'était même pas au courant. La décision ayant été prise le 10 janvier, et rappelons-nous, entre le 10 janvier et le mois de juin, Donald Trump nous parlait de grippette et il expliquait que ça disparaît comme par enchantement. Voilà, ça c'était pour faire l'honnêteté jusqu'au bout quand même. Mais c'est vrai que les Américains ont mis beaucoup d'argent, puisque le Congrès a voté avec la Warp Speed, c'est un programme sur lequel ils ont mis 10 milliards, dans un ensemble, rappelons-le, et ça c'est bien sous Donald Trump, d'une aide d'urgence de 3 900 milliards de dollars pour faire face à cette pandémie. Sans ça, on va créditer quand même l'ancien président de cette chose-là. Donc c'est un ensemble, c'est donc plus compliqué en réalité quand on veut le regarder à la loupe. Et c'est vrai, donc la situation est plus compliquée, vous le disiez vous-même.
Le succès de cette vaccination est-elle une façon d'assurer une nouvelle hégémonie de l'Amérique sur le monde, notamment sur son économie qui va redémarrer forcément plus vite que la nôtre?
Ah oui, vous avez raison de le souligner, et c'est même, je crois, comme ça que c'est aussi vécu aux États-Unis. On parle beaucoup, beaucoup aux États-Unis du vaccin russe, on parle des vaccinations telles qu'elles sont faites en Europe, en Chine ou en Russie, et c'est vrai que on se compare. C'est un peu traditionnel, mais dans ce pays dans lequel on voulait redevenir le pays great again, grand à nouveau, eh bien c'est vrai que là, on a une forme de grandeur qui est à nouveau revenue et que ça fait aussi plaisir aux Américains. D'ailleurs, on s'y trompe pas, hein. La cote de popularité de Joe Biden est environ à 54%, elle est à 72% pour ce qui est de la vaccination, du suivi de la vaccination et de la lutte contre la pandémie. Donc les Américains sont ravis de ce qui se passe et c'est une œuvre, je le répète, nationale. Ça dépasse largement les lignes partisanes.
Votre remarque est passionnante. C'est la dernière question, je vous demanderai une réponse rapide. C'est comment l'Amérique peut-elle passer du tout au tout en moins de 2 mois, même avec dans les États qui étaient initialement réfractaires à la vaccination?
Alors, est-ce qu'elle passe du tout au tout? Lionel Gendron l'a bien souligné. Il y a un paradoxe actuellement, c'est que la pandémie repart. Et on a depuis une semaine, alors qu'il n'y avait plus que 50 000 cas de contamination par jour, on est revenu hier, par exemple, à 64 000. Donc, c'est vrai que la vaccination est extraordinaire, puisque le nouvel objectif est à 200 millions de vaccinés en 100 jours. Mais rien n'est gagné. D'ailleurs, Donald Trump, vous voyez, je suis toujours sur le même logiciel. Joe Biden l'a bien dit. Soyons optimistes, parce que désormais, on voit la porte de sortie, mais optimiste raisonnable, parce qu'en réalité, rien n'est gagné encore.
Merci infiniment Jean-Éric Brana. Merci aussi à Laurent Lecor qui était à vos côtés pour cette liaison dans la magnifique voiture technique RTL de couleur rouge. Dans un instant, les grosses têtes, la météo avec Louis Baudin et la pépite musicale d'Anthony Martin. A tout de suite.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h25, bonjour Anthony Martin.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
C'est l'heure de notre pépite musicale.
Alors on va démarrer comme ça.
Look at the people. Running, shout, like they've all gone mad. You know, I think I just might go back to Africa.
En juin 1975, le groupe Albatros chantait Africa, un morceau en anglais composé par un de ses membres, l'italien Toto Cutugno. Difficile d'imaginer qu'il n'était pas du tout question d'été indien dans cette version originale. Il était question d'un retour à l'essentiel, aux racines, sur la terre africaine. Ce sont les paroliers Pierre Delanoë et Claude Lemel qui plus tard ont signé le texte devenu culte de l'adaptation française, l'été indien. Au départ pour Claude François, mais il avait raté le rendez-vous avec l'éditeur italien. La légende raconte qu'il dormait, que personne n'avait osé le réveiller de peur d'être viré.
C'est drôle.
Oui. L'adaptation a finalement été confiée à Joe Dassin, on le sait, qui en a fait un des plus beaux parler chanter de la variété. L'été indien est devenu le tube de l'été 75. Joe Dassin l'enregistre en italien, en espagnol, en allemand et en anglais. Et sa version anglaise, Indian Summer, a elle-même été reprise à l'automne 76 par la fille aînée de Frank, Nancy Sinatra. C'est notre pépite du jour. Et aux côtés de Nancy Sinatra, dans le rôle du mal à la voix grave,
oui,
son mentor baryton et compositeur attitré, Lee Hazlewood. Our son, the image of you in your long dress was like a beautiful watercolor. And I remember very well what you told me that morning, a year ago, a century ago, an eternity ago. Think of me when this is just a memory. Will you still be loving me when the summer is gone? Taste of you will fill my life.
far away.
C'est dur de rivaliser avec cette voix. Hein. Nancy Sinatra, dans les couleurs de l'Indian Summer, avec son cow-boy à moustache, Lee Hazlewood. Ils ont souvent joué aux amants, mais ils ne l'étaient pas hein, la vie. Non. On trouve cette reprise dans une délicieuse compilation double album de Nancy Sinatra, disponible en streaming, et qui sort en vinyle ce vendredi. C'est le coup d'envoi d'une série de ses rééditions de ses albums.
La pochette et la photo sont magnifiques.
Ouais, c'est une très belle époque, c'est la pop soyeuse des années 60.
Merci beaucoup Anthony, on se dit à demain, et de toute façon, à chaque instant, en podcast sur l'application RTL. Rendez-vous avec Laurent Ruquier et toute son équipe de 15h30 à 18h. On s'intéresse aujourd'hui à Jean-Philippe Janssen.
James Bond, ça vous plairait ça?
Ah oui. Ouais, ça me dirait.
Vas-y, fais
un beau costume et tout là.
C'est le Bond, My Name is Bond.
My Name is Jean-Philippe, Jean-Philippe Janssen. Michel, quel conseil vous pouvez donner à Jean-Philippe?
N'enlève pas ton accent parce qu'on risque de te le demander au cinéma, tu vois. Donc
oui.
Voilà, ça va être plus
c'est
compliqué.
Sûr que James Bond qui parle comme ça, c'est crédible.
Voilà. En même temps, ça peut être une comédie, tu vois, tout d'un coup.
Oui, je vais sauver le monde, t'inquiète pas. Mon baiser de Russie.
Avec Jean-Philippe, ce sera le premier film français sous-titré. Vu la façon dont il parle.
Ah oui, oui.
Mais tu crois pas si bien le dire qu'il y a eu un reportage sur une chaîne qui faisait un reportage, ils ont sous-titré ma mère, dis donc.
C'est pas vrai.
Et voyez, vous croyez dire une connerie, vous tombez juste.
Mais ça m'a vexé.
Ça m'a vexé parce qu'on comprenait très bien
ce que je disais. Le méchant, c'est qu'ils l'ont flouté.
Moi aussi, je m'assure, je comprends très bien Madame Janssen. Alors, les grosses têtes, 15h30, 18h sur RTL et 24h sur 24. Sur la radio, 100% grosses têtes disponibles sur l'application mobile. On les retrouve cet après-midi dès 15h30. Comme on retrouve avec grand plaisir Louis Bodin. Bonjour Louis.
Bonjour Yves.
Vous rayonnez autant que le soleil.
Je rayonne. C'est le soleil qui rayonne surtout et qui réchauffe l'atmosphère. Hein. On a eu hier des températures incroyables avec des records battus dans pratiquement toutes les régions françaises, des records de douceur. Et ça sera encore le cas aujourd'hui. On pourrait même avoir parfois un degré de plus qu'hier, donc encore des records attendus. Alors avec toujours du grand soleil, qu'est-ce que je peux trouver comme petite nuance? Peut-être un petit voile nuageux sur la Bretagne, quelques nuages sur les reliefs en fin d'après-midi sans conséquence, et toujours un petit peu de vent, d'autant sur la région toulousaine, ailleurs du grand ciel bleu. Côté température donc, toujours une grande douceur, une chaleur même l'après-midi. Bon, ce matin, il y a parfois quelques petites gelées à Chamonix, à Romorantin ou encore à Béziers, mais cet après-midi, 23-26 degrés. Si vous faites le compte, on aura parfois 22 ou 24 degrés d'écart entre ce matin et l'après-midi. On ira jusqu'à 21 degrés près de la Méditerranée.
C'est le grand écart et aucune nuance de gris, en tout cas cet après-midi, je vous ai bien compris. Bonne journée à tous, RTL, il est 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, le Tout Info avec Alexandre de Saint-Aignan pour tout entendre de l'actualité de ce mercredi 31 mars. Bonjour Alexandre.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et nous voilà arrivés au début du week-end de Pâques, une période qui coïncide avec l'arrivée des beaux jours, l'envie de se retrouver en famille, de déjeuner avec ses proches. Mais avec l'épidémie, l'exécutif prévient, pas question de relâchement sur les péages, dans les gares. Les contrôles vont s'intensifier à partir de demain. Le préfet de Moselle prévient les Parisiens, restez chez vous.
Pas de relâchement pour le week-end de Pâques. C'est triste, c'est dommage, mais cette année, vraiment, c'est pas une bonne idée. Il y aura des contrôles assez nombreux pour faire respecter le couvre-feu, l'interdiction de consommer de l'alcool sur la voie publique, faire respecter aussi les interdictions de déplacement qui viennent de régions où la situation est encore plus sévère que la nôtre, la région parisienne notamment, qui ne doivent pas venir dans les autres régions. Et donc, il y aura là aussi des contrôles.
Le préfet de Moselle, Laurent Touvet, avec Samuel Goldschmidt. Entre 200 et 300 personnes rassemblées en plein air pour faire la fête hier soir à Lyon, sur les quais de Saône. Plusieurs enceintes diffusaient de la musique alors que les jeunes étaient agglutinés au bord de l'eau, la plupart sans masque. Ils ont finalement été évacués dans le calme vers 20h30. La préfecture dénonce un rassemblement irresponsable et inacceptable. La troisième vague continue de monter dans les hôpitaux. Plus de 5000 patients dans les services de réanimation désormais, uniquement à cause du Covid. Parmi eux, des femmes enceintes, plus à risque de développer une forme grave de la maladie. Pour éviter ça, les gynécologues souhaitent qu'elles puissent toutes avoir accès au vaccin.
Il faut vraiment que l'on puisse vacciner largement les femmes enceintes et il faut que de notre côté, on les rassure parce qu'effectivement, il y a beaucoup de rumeurs ou de peurs injustifiées qui traînent. Et ce que je dis à mes patients, c'est que je suis un gynécologue qui prescrit quasiment pas de médicaments d'habitude, mais je suis très pro-vaccination. La seule chose qui passe chez le bébé quand on vaccine, ce sont les anticorps que la mère produit. Donc ça ne peut être que bénéfique que le bébé naisse avec les anticorps de sa mère.
Olivier Picone, membre du Collège national des gynécologues et obstétriciens français, avec Agathe Landais pour RTL. Une partie du personnel soignant réclame un vrai confinement pour éviter que les hôpitaux soient obligés de trier les malades.
Et nous vous rappelons que dans un quart d'heure, l'épidémiologiste Antoine Flahault sera l'invité d'Alba Ventura. Nous parlerons notamment des écoles.
Un nouveau conseil de défense sanitaire a lieu ce matin à l'Élysée. Emmanuel Macron pourrait décider de nouvelles mesures plus restrictives. Une certitude, la liste des commerces fermés n'évoluera pas, mais les commerçants vont être indemnisés. Alain Griset, le ministre délégué au PME, l'a annoncé hier soir sur RTL.
Il y a quatre secteurs, les chaussures, le vêtement, les magasins de sport et la maroquinerie, dans lesquels effectivement on constate un surstock. Et donc ceux qui, au mois de novembre, ont touché le fonds de solidarité, on va leur verser 80% de ce qu'ils ont touché au mois de novembre, en plus des aides habituelles.
Touché quand ?
Avril, début mai, parce que ça doit être simple et rapide.
Ça fait une enveloppe que vous estimez à combien au total ?
Environ 200 millions.
200 millions
d'euros. C'est à peu près 35 000 entreprises qui vont être concernées. Donc c'est vraiment des stocks qui, pour beaucoup d'entre eux, ont du mal à être écoulés.
Alain Griset, invité de Thomas Soto hier soir.
Il est 7h33. L'armée française a-t-elle commis une bavure en janvier dernier au Mali ?
C'est en tout cas ce que semble affirmer un rapport de l'ONU. 19 civils lors d'un mariage auraient été tués par une frappe aérienne. Ce n'étaient pas des civils, répète le porte-parole du ministère des Armées, Hervé Grandjean.
Il y avait un drone qui survolait la zone plus d'une heure et demie avant l'heure de la frappe. Nous couplons ce renseignement vidéo par des renseignements auprès de villageois. C'est le croisement de tous ces renseignements qui nous fait décider qu'il s'agissait bien de groupes armés terroristes. Et donc, oui, la France a effectué une frappe aérienne, mais qui a ciblé un groupe armé terroriste et qu'en aucun cas, la France n'a frappé un mariage le 3 janvier au Mali.
Une version contestée par Amadoune Diko, président d'une ONG malienne. Il est originaire du village touché par la frappe aérienne.
Nous avons pu identifier ces personnes individuellement. Et nous avons leur nom, leur âge, nous connaissons d'où ils viennent. Et moi, je suis le fils du terroir. Bounti est mon village, c'est à quelques kilomètres. Il est temps qu'on avance, qu'on reconnaisse que c'est une bavure. L'erreur est humaine, il n'y a pas une armée parfaite au monde. Ça peut arriver à tout le monde. Et il faut aussi penser à indemniser les familles des victimes.
Plus de 5000 militaires français sont toujours mobilisés au Sahel dans le cadre de la force anti-djihadiste Barkhane. Monique Olivier attendue dans les Ardennes. Aujourd'hui, l'ex-épouse du tueur en série Michel Fourniret doit quitter sa cellule pour tenter d'aider les enquêteurs à retrouver le corps d'Estelle Mouzin, 18 ans après la disparition de la fillette. Des nouvelles fouilles ont lieu depuis hier sur les terres de celui qu'on surnomme l'ogre des Ardennes.
Il est 7h35. L'image de la nuit aux États-Unis, les larmes d'une lycéenne au procès de George Floyd.
C'est elle qui avait filmé l'intervention de la police avec son smartphone au mois de mai dernier. La police prétendait initialement que la mort de George Floyd était une urgence médicale. Sa vidéo avait permis à la vérité d'éclater. Et depuis, la jeune fille est hantée par l'idée qu'elle aurait dû faire plus pour éviter ce drame.
Quand je regarde George Floyd, je vois mon père, mes frères, mes cousins, mes oncles, parce qu'ils sont tous noirs.
It's been nights.
Je passe des nuits blanches à m'excuser.
Apologizing.
À m'excuser auprès de George Floyd de ne pas avoir fait plus.
To George Floyd for not doing more.
Parmi les autres témoins du meurtre, un ancien pratiquant des sports de combat, il affirme avoir vu le policier Derek Chauvin pratiquer un étranglement sanguin avec la pression de son genou sur le cou de George Floyd. Il aurait coupé l'arrivée du sang au cerveau, ce qui pourrait avoir entraîné sa mort.
Du football ce soir, l'équipe de France affronte la Bosnie.
Un match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022. Les Bleus enchaînent leur troisième match en 8 jours. Le sélectionneur Didier Deschamps espère que les Bleus vont continuer sur leur lancée.
Ce contexte a plutôt tendance à favoriser les équipes sur le papier qui peuvent être peut-être un peu plus faibles. Puis l'enchaînement des matchs, on est au troisième match en une semaine. Voilà. Et quand on peut faire beaucoup de changements, ça prouve bien que l'équipe de France obtient de bons résultats. Et l'important, c'est de pouvoir continuer à en obtenir.
Didier Deschamps avec Philippe Sanfourche. Bosnie-France à vivre ce soir dans RTL Foot, spécial équipe de France de 20h à 23h. Et à la télévision, ce sera sur M6. Et puis, à une semaine du quart de finale de la Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain, un coup dur pour son adversaire, le Bayern Munich. L'attaquant star Robert Lewandowski sera forfait mercredi prochain, blessé à un genou. Il sera absent des terrains pendant un mois, Lewandowski, qui devrait donc également manquer le match retour.
Merci beaucoup Alexandre de Saint-Aignan. On se retrouve à 8h40 pour la face cachée de la Une.
Oui, on ne sait pas encore quand les cinémas vont pouvoir rouvrir leurs portes, mais les films, en tout cas, se bousculent déjà pour être à l'affiche.
Rendez-vous est pris Alexandre, à tout à l'heure. Il est 7h37. Bonjour François Langlais.
Bonjour Yves.
Alors vous allez cartonner ce matin ?
Oui, c'est le secteur de l'emballage qui fait un carton justement grâce au boom du e-commerce.
au point qu'il y a une pénurie mondiale de matériaux qui emballent nos colis. Je vous raconte ça tout de suite.
Le nouvel or en carton, dans un instant avec François Langlais sur RTL.
RTL Matin.
Avec Yves Calvi. RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h38, l'anglais co avec vous, François Langlais. Alors là,
oui, bonjour à tous.
J'en perds mon carton d'emballage. Le secteur de l'emballage, justement, est en plein boom, François.
Oui, on parle souvent des victimes de la crise sanitaire. Bon, c'est vrai qu'il y en a, les restaurants, les cinémas, etc. Mais il y a aussi ceux qui ont été portés par les mesures de restriction, et l'emballage est l'un de ces secteurs. Grâce à l'explosion du e-commerce et de la livraison à domicile, bien sûr. En France, l'achat à distance d'objets, des vêtements, la nourriture, les meubles, l'électroménager, a fait un bond de 35% en 2020. Or, pour livrer, il faut bien sûr emballer.
Ah oui.
Du coup, nous sommes en pénurie de carton, de plastique, de polystyrène, toutes matières qui servent à faire des paquets. La demande progressait déjà de 10% avant la pandémie. Elle a littéralement explosé depuis. Et cela d'autant plus qu'on a tendance au sur-emballage, justement à cause de la crise sanitaire, à crainte de la contagion, en particulier pour les produits alimentaires. Et en plus, en moyenne, un paquet contient, figurez-vous, 40% de vide.
Oulala.
C'est énorme.
D'où ça vient tout ce carton qu'on utilise ?
Heureusement, c'est en très large partie recyclé, mais les prix ont augmenté dans toute l'Europe. Au Royaume-Uni, qui connaît lui aussi une très forte pénurie, le prix de la tonne de carton usagé destiné au recyclage a été multiplié par 12. En France, les industriels du carton ont connu une demande en croissance de plus de 25%. Raja, par exemple, c'est une entreprise familiale spécialisée dans l'emballage. Premier européen du secteur, Raja a dépassé le milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2020.
On imagine que les sociétés de livraison à domicile ont-elles aussi profité ?
Oui, bien sûr. Aujourd'hui même, c'est l'introduction en bourse à Londres de Deliveroo, justement une plateforme de livraison qu'on connaît bien dans la grande ville française. Introduction pour près de 9 milliards d'euros. Bon, ils ont évidemment bien choisi leur moment pour se vendre aux investisseurs.
Ah bah oui.
C'est la plus grosse introduction en bourse depuis 10 ans, ombrée quand même par le scandale des conditions de travail de leurs livreurs à vélo. La Poste britannique, privatisée, est devenue tellement rentable grâce à la forte croissance de la distribution de colis qu'elle va distribuer un dividende exceptionnel à ses actionnaires. En France aussi, bien sûr, les entreprises de livraison ont connu un cru exceptionnel avec plus d'un milliard de paquets distribués l'année dernière, 30% de croissance pour Colissimo, par exemple. Enfin, les créations d'entreprises, très dynamiques en 2020, reflètent aussi cette tendance. 12% des nouveaux auto-entrepreneurs débutent dans la livraison à domicile.
D'où on peut conclure que la crise économique n'est pas du tout uniforme.
Tout à fait. En fait, épidémie et confinement déforment la structure de l'activité économique en faisant maigrir certains secteurs et grossir d'autres. Les interdictions de se déplacer ou de se retrouver amputent, bien sûr, la croissance. Mais plus les humains sont immobiles, plus les marchandises bougent, justement pour être livrées à domicile. La contrepartie de notre immobilité forcée, c'est l'extraordinaire mobilité des objets pour arriver jusqu'à nous. Mobilité qui nécessite des emballages, des logisticiens, des camions, des vélos, des livreurs, tous ceux qui habitent la face cachée de l'économie sans contact.
Je vous le confirme, j'ai honte à chaque fois que je vais porter mes cartons, je le fais la nuit dans mon local à poubelle dans l'immeuble. Merci beaucoup François Langlais, on vous retrouve sur le site rtl.fr. Il est 7h42, bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
Le professeur Antoine Flahault, épidémiologiste à l'Université de Genève, directeur de l'Institut de Santé Globale, il plaide depuis longtemps déjà pour la fermeture des écoles pour freiner l'épidémie.
A tout de suite avec le professeur Antoine Flahault sur RTL.
RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le professeur Antoine Flahault, épidémiologiste et professeur de santé publique à l'Université de Genève.
Bonjour Antoine Flahault.
Bonjour.
L'école n'est pas le lieu social principal des contaminations, ça c'est ce qu'a répété hier le ministre français de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. C'est vrai ou c'est faux ?
Alors vous savez, il n'y a plus beaucoup de lieux de contamination chez les adultes. Parce que une fois qu'on a fermé les bars, les restaurants, toute la vie culturelle, toute la vie sportive, qu'il y a le couvre-feu, que beaucoup de gens sont en télétravail, il n'y a plus beaucoup de possibilités de contamination chez les adultes. Certes, il y a sans doute encore les cantines d'entreprise et puis tous ceux qui vont quand même au travail, mais les écoles représentent certainement l'un des lieux majeurs aujourd'hui de la contamination qui peut peut amener à avoir plus de 40 000 personnes chaque jour contaminées en France. Donc je crois qu'en Europe, en ce moment, l'école, et ça a été assez bien montré par d'autres, dans d'autres pays, l'école joue un rôle sans doute très important, notamment les cantines scolaires, mais aussi en fait tout le lieu de l'école.
Alors, est-ce que ce sont les enfants eux-mêmes qui sont la cause de la circulation du virus? Est-ce que ça part des enfants? Je ne sais pas si je m'exprime correctement, mais est-ce que ça vient d'eux ou est-ce que ça vient de leurs parents ou est-ce que ça vient des professeurs?
Alors, c'est une question qui est difficile parce que les chaînes de contamination sont multiples et il y a de multiples occasions de se contaminer. On peut dire pour toutes les maladies virales respiratoires, et c'est pas propre au coronavirus, les enfants jouent un rôle très important parce que il y a beaucoup de promiscuité chez l'enfant. Ils sont dans des salles de classe qui sont pas très ventilées pendant des heures. Les gestes barrières sont plus compliqués pour eux à mettre en œuvre. Donc, de façon générale, l'école, le lieu scolaire joue un rôle très important dans toutes les transmissions de maladies virales respiratoires. Et il n'y a aucune raison, ni physiologique, ni virale, ni virologique, pour que les enfants jouent un rôle différent que celui qu'ils jouent, par exemple, dans le cas de la grippe. Et on a bien montré, dans le cas de la grippe, que les écoles jouaient un rôle important. Vous savez, pour la grippe, la moitié des contaminations se passent avant l'âge de 18 ans.
Alors, le nouveau protocole qui consiste à fermer la classe dès qu'il y a un cas de Covid, ce n'est pas suffisant pour vous, professeur?
Alors, c'est pas que ce n'est pas suffisant. Je pense que la France a eu le mérite de dire, de façon très unanime, toute la classe politique, mais aussi la plupart des experts, tous les pédiatres, ont rappelé que l'école est un droit fondamental des enfants et que l'éducation, ça ne s'indemnise pas. On peut-être indemniser les pauvres gérants de restaurants ou de bars qui sont mis au chômage ou qui ont leur commerce qui ne fonctionne pas. On ne peut pas indemniser une scolarité manquée, une éducation manquée. Donc personne, c'est pas de gaieté de cœur que l'on dit que l'école est un lieu de transmission. Il faut pas mettre la tête sous le sable, c'est tout. Il faut regarder les choses en face. Donc l'école devrait être d'abord bien davantage sécurisée. Je pense qu'on ne le dit pas assez. On devrait faire des tests plusieurs fois par semaine dans les écoles, de façon très massive. Si on veut laisser les écoles ouvertes, on doit ventiler bien davantage les écoles et on doit le vérifier. On peut le vérifier par des capteurs de CO2. Qui permettrait de montrer que les écoles, les salles de classe sont bien ventilées. Donc voilà, je pense.
Mais
que...
si on fait ça, si on suit ce que vous dites, ça suffit. Ça suffirait.
Alors, tout ce qui permet de réduire la transmission suffit, comme vous dites. Le suffit pose la question de savoir où l'on en est dans l'épidémie. Il se trouve qu'aujourd'hui, on est à un niveau extrêmement élevé de contamination. Quand on a 40 000 contaminations par jour dans un pays comme la France, c'est un niveau très élevé et il suffit d'un tout petite élévation du taux de reproduction pour doubler et le doublement de 40 000, même si ça doit prendre une dizaine de jours, ça mènera à 80 000 contaminations par jour. Vous savez que les États-Unis, quand ils atteignaient 100 000 contaminations par jour, trouvaient que c'était énorme. Donc en France, on est déjà à un niveau très élevé. Donc à un niveau aussi élevé, je pense malheureusement qu'on arrive à une sorte de point de non-retour et que, comme vous dites, ça ne suffit pas. Des mesures aujourd'hui ne peuvent pas être des pansements. Il faut probablement des mesures fortes pour enrayer cette épidémie.
Vous savez qu'on est très perdu parce que dimanche, il y a une tribune d'une quarantaine de médecins qui tirait la sonnette d'alarme sur la situation à l'hôpital. Et alors ce matin, dans le journal Le Figaro, le président des médecins urgentistes, Patrick Peloux, dit « Non mais dans les hôpitaux, ce n'est pas la bérésina, il est faux de dire qu'on va trier les malades. » On ne sait plus ce qu'on doit comprendre, professeur. C'est la bérésina ou c'est pas la bérésina
dans les... Non, c'est pas la bérésina. Vous savez, les Britanniques ont connu un taux de reproduction qui était à 1,20, à peu près ce qu'on a en France en ce moment, mais ils l'ont connu pendant un mois de suite, tous les jours d'affilée au mois de décembre. Et Le 4 janvier, Boris Johnson a décidé de confiner strictement le pays, un peu comme au mois de mars pour la France, au mois de mars 2020. Et le 4 janvier, il l'a confiné. Pourquoi ? Parce que le système de santé britannique lui a dit, dans 3 semaines, si on continue comme ça, nous ne pourrons plus soigner les Britanniques, nous serons obligés de trier les patients. Il est très possible que ce soit le cas aujourd'hui dans certaines régions françaises. C'est sans doute pas le cas dans toutes les régions françaises. Donc, en ce sens, c'est pas encore le point de rupture, mais on n'en est pas loin. Je pense que il est vrai de dire qu'on n'en est pas loin. Je crois que aujourd'hui, la pente de progression des cas n'est pas aussi raide qu'elle était au mois de mars, mais en réalité, comme on part de beaucoup plus haut, c'est finalement probablement encore plus important. Vous savez, un petit peu comme la marée qui monte au Mont-Saint-Michel n'est pas un tsunami, c'est pas une énorme vague, mais elle envahit l'ensemble de la baie. On peut dire aujourd'hui que l'ensemble du territoire français, peut-être à part la Corse qui est un peu épargnée pour le moment, l'ensemble du territoire français est concerné.
Mais alors, il y a un conseil de défense ce matin à l'Élysée où le président de la République doit prendre une décision. Est-ce que, à votre avis, ce matin, la meilleure décision à prendre, c'est de dire on ferme les écoles ou bien on va jusqu'à confiner strictement pendant 4 semaines?
Alors, les deux options, aujourd'hui, ont prouvé en France qu'elles étaient efficaces, mais pas de façon égale. La première option, c'est on ferme les écoles et on confine l'ensemble du pays de façon assez stricte. On le sait, ça a fonctionné en mars 2020, ça refonctionnerait au jour d'aujourd'hui sur cette pandémie, avec les variants que l'on a qui tirent vers le haut le taux de reproduction. Ce serait la mesure la plus efficace pour aller le plus rapidement possible vers la décrue. On a essayé en France la technique de fermer le pays sans fermer les écoles. En fait, il n'y a pas que les écoles. Quand on ferme les écoles, c'est un peu toute la vie du pays qui s'arrête. Hein. Et donc, quelque part, ça a un rôle vertueux sur le plan sanitaire, j'entends, hein, sur le plan de la circulation du coronavirus, parce que les parents ne vont plus amener leurs enfants à l'école, ne se rassemblent plus, n'ont plus ces interactions. C'est très triste, hein, c'est pas du tout... c'est quelque chose d'extrêmement lourd, extrêmement fort, mais qui est extrêmement efficace. Si on ne le fait pas, on est dans le style du confinement du mois de novembre, qui n'avait pas permis, rappelez-vous, de passer de 40 000 cas à nouveau, à peu près le même niveau qu'en ce moment, à 5 000 cas, comme le président de la République l'avait voulu. On était on s'est arrêté au 1er décembre à 10 000 cas par jour, et donc ça n'avait pas permis d'aller jusqu'à la décrue. Donc ça va plus lentement, mais ça ne veut pas dire que ça ne marcherait pas. Un confinement sans la fermeture des écoles fonctionnerait, mais probablement fonctionnerait moins bien et mettrait plus de temps à obtenir cette décrue.
Donc le mieux, ce serait un reconfinement et une vaccination massive pendant ce temps-là ?
Alors oui, vous avez tout à fait raison de mentionner la vaccination. La vaccination massive qui a lieu, hein, qui a commencé largement et qui continue à se faire, va permettre de reprendre, une fois qu'on aura repris la main, va permettre de rester à marée basse. Car l'objectif, je pense, c'est clairement que ce soit le dernier confinement s'il y en a un et qu'on ait une décrue très prononcée dès le mois de juin pour qu'à partir du mois de juin, il n'y ait pratiquement plus de circulation du virus dans le pays et qu'on puisse reprendre une vie quasiment normale, tant sur le plan social que sur le plan économique, avec bien sûr sur le plan sanitaire tous les bénéfices qui suivront.
Vous avez compris quelque chose à la stratégie du président Macron, puisque en novembre, il était question de ne pas enregistrer plus de 5 000 cas, donc on en est à plus de 30 000. Et aujourd'hui, on comprend plutôt qu'à l'Élysée, l'idée c'est de vivre avec le virus, parce qu'on prend en compte tous les paramètres économiques, éducatifs, psychologiques. Vous avez compris quelque chose ?
Alors, la stratégie du vivre avec que vous énoncez, c'est la stratégie de tous les Européens. C'est pas du tout spécifique à la France, d'accord, en Suisse, mais aussi en Allemagne, mais aussi dans toute l'Europe, y compris donc au Royaume-Uni. Vivre avec, c'est je ne confine qu'en dernier recours, que si le système de santé est menacé.
Mais on a entendu dire on a gagné du temps. On a entendu dire ça à l'Élysée. On a gagné du temps ou on a perdu du temps?
Non, on a perdu du temps, malheureusement. Parce qu'en fait, là où la stratégie française avait changé du vivre avec vers une stratégie de circulation minimale du virus, c'était au moment du 28 octobre, lorsque le président de la République a annoncé, ce que vous dites, les 5000 cas, la circulation minimale du virus. Et malheureusement, le 1er décembre, on était à 10 000, Et après, on n'a fait que monter, alors que le conseil scientifique avait proposé le 29 janvier de finir le travail. Et pour finir le job, il fallait redescendre à 5000 cas. Ça n'a jamais été fait, malheureusement.
Vous avez de l'humour, professeur ?
Je ne sais pas.
Ça vous a fait rire quand Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, a dit « Le président a acquis une vraie expertise sur les sujets sanitaires. Ça n'est pas un sujet inaccessible pour une intelligence comme la sienne, au regard du temps important qu'il y consacre depuis plusieurs mois. » À quoi bon faire 10 ans de médecine ? Il faut faire président, en fait, c'est ça ?
Non, je pense qu'on a, des équipes dirigeantes qui sont d'abord très bien formées et qui ont toutes les capacités de comprendre ce que sont les courbes épidémiologiques. C'est des sujets extrêmement complexes. Plusieurs personnalités politiques de tous bords en Europe se sont pris les pieds dans le tapis. C'est des sujets qui sont éminemment complexes. Il faut le reconnaître. Et je pense que, en revanche, il est très important que tout le monde puisse comprendre, et c'est quand même très heureux que l'on ait des politiques en Europe qui ont massivement pris leurs décisions en les fondant sur les avis des scientifiques. Les scientifiques non plus ne doivent pas diriger le pays, hein, c'est bien les politiques qui ont d'autres paramètres que les paramètres purement épidémiologiques. Il est très important que les politiques comprennent les paramètres épidémiologiques, mais on peut comprendre aussi et entendre qu'il y a d'autres critères qui sont des critères sociaux, de perception du public, de perception du risque par les citoyens, mais aussi des paramètres économiques.
Merci beaucoup, professeur Antoine Flao. Et je rappelle votre livre précieux qui s'appelle Covid, le bal masqué. C'est aux éditions Dunod pour avoir Merci. Tout le récit de la pandémie.
Merci beaucoup.
Merci.
L'école et les cantines scolaires jouent un rôle important aujourd'hui dans les contaminations, vient de nous dire Antoine Flao. À 40 000 contaminations par jour, la France est à un niveau très élevé, un point de non-retour. Les scientifiques, néanmoins, ne doivent pas diriger le pays, nous a dit le professeur Flao. Merci infiniment à tous les deux. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Et Cyprien Sini surfe avec le week-end de Pascal sous haute surveillance dans un tout petit instant.
RTL Matin. Avec Yves Calvi.
Cette semaine sur RTL, à l'occasion des fêtes de Pâques, tous les auditeurs qui passent à l'antenne remportent un assortiment d'un kilo et demi de chocolat Jeff de Bruges, composé d'un coffret de lapin en guimauve, enrobé de chocolat, de petits œufs garnis et de chocolat Jeff de Bruges spécial Pâques. De quoi faire plaisir et vous régaler.
RTL Matin.
Le surf de l'info.
Cyprien Sini.
7h57. Bonjour Cyprien.
Bonjour à tous.
Vous surfez avec le week-end Pascal ?
Vous habitez en zone rouge écarlate, confinée dehors ? Et vous avez prévu de rejoindre la France libre pour le week-end de Pâques ? Eh bien, si j'étais vous... Je partirai fissa fissa. Oui, enfin d'abord, c'est interdit. Hein. Mais en plus, le ministre de l'Intérieur a le week-end de Pâques dans le viseur. Oui, le week-end.
D'ici le week-end de Pâques, ah, oui. De ce week-end... De haut risque.
Week-end de haut risque, week-end. Résultat.
Et donc des contrôles qui seront encore renforcés. Ces contrôles intensifs dès jeudi sur les péages dans les gares.
Oui, pas la peine de poser une RTT pour partir le jeudi et espérer passer sous les radars. Ah. Policiers et gendarmes oui. seront sur le pont. Contrôle renforcé. Enfin, en même temps... Ça fait quand même un an qu'on renforce les contrôles. Hein. Fin mars 2020, c'était pas le même ministre, mais déjà la même passion.
Le week-end approche, il fera certainement beau un peu partout en France. Nous avons donné des instructions très claires pour que des contrôles soient faits dans toutes les gares, dans tous les aéroports.
Oui, la même chose. Et puis en novembre dernier aussi.
Gérald Darmanin veut davantage de contrôles pendant ce confinement.
Opération contrôle renforcée toutes les semaines. Et là, eh ben on a une pensée émue pour les forces de l'ordre qui se préparent à entendre les fameux...
Je travaille à Paris, déplacement. D'accord. Je suis du sud, moi. Et la semaine, je suis à Paris et le week-end...
Le week-end, c'est le week-end, quoi. Ouais, non, en fait, ça sans l'attestation, ça va pas marcher. Ah, vous savez, l'attestation, celle qu'on a tout le temps sur soi et puis...
En règle générale, je l'ai tout le temps. Oui. Et cette fois, j'en ai pas.
Eh oui, juste le jour où on se fait contrôler, bim, on l'a oublié. C'est tout le temps comme ça que ça se passe. Heureusement qu'il nous reste les motifs impérieux ou les certificats médicaux. Vous le connaissez, ce docteur, il fait des ordonnances magiques.
Pratique du surf et des bains de mer, 1h30 par jour, 7 jours par semaine, pendant la durée du confinement. Voilà, donc ça c'est ton médicament
D'accord, okay.
quotidien.
Voilà, ça c'est un vrai médecin, une vraie ordonnance. Mais bon, ça risque quand même d'être compliqué à expliquer à la gare, planche de surf sous le bras ce week-end. Après, n'oubliez pas non plus que les forces de l'ordre ne sont pas toujours infaillibles lors des contrôles, comme dans ce reportage de M6.
Oui,
Affirmatif, affirmatif, 190 km/h.
Intervention, intervention, chauffard à 190 à l'heure, interception de la brigade motorisée et...
Le conducteur conteste formellement. Les gendarmes sont saisis d'un doute. Et il y a comme un problème. La marque et la couleur de la voiture correspondent bien, mais pas le modèle. Les motards se sont donc trompés de voiture.
Eh oui, comme quoi, hein, sur un malentendu, ça peut passer. Mais le mieux, évidemment, ça reste de respecter la loi et les règles sanitaires. Même si je vous rappelle que vous avez le droit de quitter Paris pour Barcelone ou les Canaries, mais pas d'aller en Normandie. Eh oui, ainsi va la vie.
Et c'est vrai. Merci beaucoup, Cyprien Signy. Notre météo, Louis Baudin.
Bah, c'est encore simple aujourd'hui. Hein. Du soleil pour tout le monde, un petit voile nuageux sur la Bretagne, quelques nuages sur les montagnes en cours d'après-midi sans conséquence. Encore un peu de vent d'automne en région toulousaine. Et c'est tout. Et sous ce soleil très généreux, les températures font encore le grand écart entre ce matin où on est parfois proche du 0 degré et cet après-midi où là ce sera le mois de juillet, hein, 23-26 degrés dans toutes les régions, 20-21 degrés près de la Méditerranée.
Merci beaucoup Louis Baudin, merci à vous de nous être fidèles. Il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, friction au sommet de l'État sur la question des écoles.
Faut-il vacciner immédiatement les enseignants ou renvoyer tous les élèves chez eux au plus vite? Le bras de fer continue. À suivre également le bas de laine des Français qui s'étoffe, merci la crise. Et puis la dernière étape des Bleus du foot dans leur qualification mondiale. Ils défient ce soir la Bosnie.
RTL Matin.
Mais tout d'abord, on a une pensée ce matin pour ce commissaire de Clermont-Ferrand, dont le fils de 18 ans vient de s'illustrer de la plus mauvaise des manières. On se demande d'ailleurs ce qui lui est passé par la tête. Il a volé la voiture de fonction de son papa pour rouler à tombeau ouvert. Cerise sur le gâteau, il n'a pas le permis et il a été assez sot pour se laisser filmer par un passager. Et ce sont donc les vidéos de ses exploits mises en ligne sur les réseaux sociaux qui ont permis de l'identifier, Guillaume Frixon.
Oui, ce sont deux vidéos de 30 secondes filmées au téléphone portable et elles font froid dans le dos. Ils sont au moins trois dans la voiture banalisée du numéro 2 des policiers du Puy-de-Dôme. En pleine nuit, la première montre la voiture filant à toute vitesse.
Doucement, doucement, doucement.
Sur cette grande ligne droite, la zone est limitée à 30 et 50 km/h. Dodan et flash de radar, rien n'arrête la fine équipe.
Il est complètement vargeux ce putain de policier.
Pour la deuxième vidéo, le même cadrage et toujours le même jeune homme au pull rouge au volant. Il est âgé de 18 ans, il n'a pas le permis et la voiture file cette fois dans des petites rues du centre-ville de Clermont-Ferrand.
Envoyer une équipe de renfort pour avenue Léon Blum.
Au volant, ce serait le fils du directeur départemental adjoint de la sécurité publique. Il aurait subtilisé la voiture de fonction de son père directement dans les parkings du commissariat clermontois. A noter qu'en décembre dernier, il avait déjà été arrêté pour des faits similaires tout en arborant la carte de police de son père. L'enquête ouverte par le procureur de Clermont-Ferrand a été confiée à la police judiciaire sur ces faits, je cite, « graves ». Et intolérable.
Et ce jeune homme comparaîtra en correctionnel le 6 avril prochain. C'était Guillaume Frixon.
8h02, vers un reconfinement total ou pas, on en saura peut-être un peu plus d'ici ce soir.
Après un nouveau conseil de défense sanitaire ce matin à l'Élysée, ces dernières heures, la foire aux rumeurs est ouverte, hein, comme d'habitude. Une certitude néanmoins, la question des écoles est désormais centrale, Vincent Derosier.
Oui, le sujet divise et il promet d'animer ce conseil de défense. Faut-il aller plus loin que le nouveau protocole ? Une contamination, une fermeture de classe? Faut-il carrément fermer les écoles et renvoyer les élèves chez eux, comme au mois de mars 2020? Depuis lundi en tout cas, Jean-Michel Blanquer réclame au président la vaccination immédiate des enseignants. Un coup de pression rendu public et qui a, selon plusieurs proches, fortement déplu à Emmanuel Macron. La ligne du président, résume un conseiller, c'est chaque jour gagné nous rapproche des vacances. À l'Élysée, donc, on tente de gagner du temps. Rien n'est à bout, tout est sur la table, répète l'entourage du chef de l'État. Sauf que la pression est de plus en plus forte. De nombreux élus réclament la fermeture totale des écoles. Et même au sein du groupe majoritaire à l'Assemblée, les députés sont de plus en plus divisés sur le sujet. Alors face à la grogne, Matignon tente aussi de faire retomber la pression et rappelle que la fermeture des écoles n'est pas la solution miracle.
Les informations de Vincent Derosier pour RTL. Et dans ce contexte, à quel médecin se vouer? Difficile de savoir qui dit vrai. Dans le Figaro ce matin, le président des médecins urgentistes de France, Patrick Peloux, remet en cause les projections alarmistes de certains de ses confrères. Ce n'est pas la bérésina. Il est faux de dire que l'on va trier les malades, affirme Patrick Peloux. Même son de cloche du côté de la Fédération hospitalière d'Île-de-France. Oui, la situation est critique, mais nous accueillons tout le monde, même si c'est difficile, martèle son président.
Un nouveau variant détecté en Île-de-France.
Il a été identifié à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Il pourrait être plus contagieux et moins sensible au vaccin. Santé publique France précise qu'il a été classé dans la catégorie des variants à suivre.
Aux États-Unis, on vaccine beaucoup, mais on se relâche aussi.
La guerre contre le Covid est loin d'être gagnée, rappelle Joe Biden, alors que certains États ont déjà levé les restrictions. Il faut dire que près de 30% des Américains ont déjà reçu au moins une dose. Là-bas, pas de problème de pénurie. À New York, on vaccine même les plus jeunes. Reportage sur place pour RTL de Lionel Gendron.
Dans la salle omnisport de ce quartier du Queens, Jason s'apprête à recevoir sa deuxième dose de vaccin. Il n'a que 21 ans. Son diabète lui a permis d'être prioritaire. Et il vit ça comme une fête.
En 2020, j'ai annulé plein de voyages, des projets. C'est un énorme soulagement.
Depuis hier, les New-Yorkais de plus de 30 ans sont éligibles. La ruée sur Internet pour avoir un rendez-vous. Louisa, jeune trentenaire enceinte, en a un et elle mesure sa chance.
Je suis originaire d'Allemagne et là-bas, comme dans beaucoup de pays en Europe, c'est compliqué de se faire vacciner. Ici, c'est facile, je me sens privilégiée.
Si 30% des New-Yorkais sont déjà vaccinés, c'est que les autorités n'ont pas de problème de stock, comme le reconnaît Diana, responsable d'un centre de vaccination.
On a beaucoup de stock et beaucoup de personnes pour vacciner, donc oui. Vraiment, on peut honorer tous les rendez-vous.
Mais cette vaccination éclair entraîne aussi un relâchement dans les comportements. Résultat, les infections dans le pays ont augmenté de 13% ces derniers jours.
Lionel Gendron aux États-Unis pour RTL.
Et malgré ce contexte pesant, les Français retrouvent un peu le sourire. On vous explique tout ça dans quelques instants. Le moral des ménages est un peu en hausse.
RTL Matin.
8h07, la suite du journal de Jérôme Florin. Qui l'eût cru ? Malgré le contexte général, les Français sont moins déprimés.
Oui, le moral des ménages a grimpé de 3 points en mars, d'après la toute dernière enquête de l'INSEE. Ils regardent un peu plus sereinement leur future situation financière, ce qui ne les empêche pas de rester très prudents. Alors prudent, ça veut dire quoi ? Bien, ça veut dire qu'on épargne en attendant le retour des jours heureux. À Lyon, le reportage de Frédéric Perruche.
Depuis un an, hormis pour son bébé de 6 mois, Joris n'a rien dépensé. Alors dès qu'il le pourra, il s'offrira un beau voyage en famille.
Si j'ai le droit d'aller en Italie, je serai content. Après, si je peux aller sur un autre continent, ça sera parfait. Si je peux retourner en Asie, côté Thaïlande, ou après Amérique du Sud ou Amérique du Nord, voilà. Ce serait quand même bien d'aller voir autre chose et surtout de plus entendre parler de ce que l'on entend tous les jours.
Jean, lui, a dû annuler des vacances à l'étranger, alors l'argent servira finalement à la rénovation de l'appartement.
J'ai dû mettre peut-être l'équivalent de 3000 euros de plus dans ma salle de bain. C'est beaucoup, puisque c'est l'équivalent d'un voyage, oui, c'est l'équivalent d'un gros voyage à 3. Donc ouais, c'est 3000 euros que j'ai pu mettre un peu plus facilement dans ma salle de bain. Donc c'est pas mal. Donc oui, d'une certaine manière, merci le Covid.
Alexis, 24 ans, stagiaire en entreprise, a fait ses calculs. Il a économisé plus de 2000 euros depuis un an. Qu'il investira dans une voiture.
On n'a plus du tout boire des bières, on n'a plus du tout au restaurant. J'ai beaucoup moins de dépenses festives, quoi.
Du coup, voiture.
C'est une première voiture, donc un petit plaisir, c'est ça. Pouvoir partir le week-end avec des copains, pouvoir partir cet été aussi, ça fait du bien de pouvoir se projeter un peu sur les vacances d'été.
Beaucoup de Lyonnais rencontrés indiquent également qu'ils aideront leurs enfants ou leurs petits-enfants, souvent en grande difficulté.
Frédéric Perruche.
Alors, qu'allons-nous faire de toute cette épargne ? Les explications de notre brigade avec Eric Vénier à 8h20 et l'analyse de l'économiste Eric Ayer dans la foulée.
Un nouveau coup de pouce pour les petits commerces qui n'ont pas réussi à écouler leur stock d'invendus. Le ministre PME l'a annoncé hier soir sur RTL. Les vendeurs de vêtements, de chaussures, sur les magasins de sport et les maroquineries qui ont bénéficié du fonds de solidarité pourront toucher 80% de ce qu'ils ont perçu en novembre. Ça concerne les enseignes de moins de 50 salariés. Et pendant ce temps, eh bien, à l'Assemblée, le débat sur la loi climat se poursuit dans un climat justement toujours tendu. Les non-inscrits n'ont eu que 48 secondes pour défendre des centaines d'amendements. 10 secondes chrono pour l'ancien marcheur Mathieu Orphelin.
Monsieur Orphelin, vous souhaitez intervenir, vous avez la parole pour 10 secondes.
Nous ne pourrons donc présenter aucun de nos amendements. C'est lamentable, c'est lamentable, c'est lamentable, c'est lamentable, c'est lamentable.
Vous pouvez encore faire c'est un lamentable et c'est lamentable. Le temps de parole qui vous était.
Et donc ça a bien fait 10 secondes. Oui,
le temps a été respecté. Il est 8h10, il y a match ce soir, Bosnie-France.
Troisième et dernière rencontre de qualification mondiale pour les Bleus après l'Ukraine et le Kazakhstan. Objectif, conserver la première place de leur groupe. Et Kylian Mbappé devra rebondir après deux sorties plutôt mitigées. L'analyse de notre consultant Robert Pires.
Son statut, il est à part, il est monté d'une catégorie.
Il a beaucoup de responsabilités. En même temps, c'est ce qu'il a voulu. Il les a obtenus de la part, soit du côté du PSG, soit de la part de notre sélectionneur. Donc, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, il sera automatiquement jugé. C'est vrai que sur les deux derniers matchs, on n'a pas vu. Et je pense qu'il en est conscient. Maintenant, à lui de réagir et de prendre un petit peu ses critiques, de bien les analyser. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du sportif de haut niveau. Critiquer, je l'ai été beaucoup de fois. Hein. Quand on fait un bon match, on est content de lire la bonne presse, mais aussi l'analyse quand on n'est pas bon, il faut l'accepter. Pendant ma deuxième saison à l'Olympique de Marseille, ça se passait pas très bien. En plus, j'étais capitaine, donc quand il fallait tirer sur quelqu'un, ben, on tirait sur moi. Je l'ai accepté parce que j'avais aussi dit oui à Roland Courbis pour être le nouveau capitaine. Et puis ça aussi, ça forge un mental. C'est ce qui m'a permis peut-être d'aller en Angleterre, à Arsenal, et puis de réussir. Donc ce qu'il faut dire à Kylian, c'est que quand ça ne va pas ou quand il fait pas un grand match, il faut juste trouver les formules, parce que bon, après il y a aussi l'ego. Je crois que ça, il faut pas l'oublier. Mais connaissant un peu le joueur, il est assez intelligent pour faire la bonne analyse.
Robert Pires avec Philippe Sanfourche.
Bosnie-France à vivre en direct sur RTL et sur M6 dès 20h sur notre antenne de RTL Foot. Spéciale équipe de France avec les analyses de nos consultants Xavier Demergue et Robert Pires.
Et d'ici là, ceux qui ont la chance de ne pas être coincés dans un bureau pourront une nouvelle fois profiter du soleil. Dehors en citoyen, on le rappelle, il va encore faire chaud, nous disait Louis Baudin, avec parfois des écarts de température de 22 voire 24. 4 degrés entre le matin et l'après-midi, hein, vous
je
nous
confirme.
Disiez. Voilà, merci. Direction la Turballe, en Loire-Atlantique, avec Nicolas Bobby.
C'était vraiment digne d'une plage privée, 28 degrés au soleil, un petit peu d'air frais, pas de vacanciers, le bonheur pour Claire, allongée sur sa serviette.
Oui, je suis en maillot de bain, deux pièces.
On en profite, et puis surtout, il n'y a personne, parce qu'on est mardi. C'est surtout le privilège de disposer de la plage et d'un beau ciel bleu, avec une distanciation sociale, là, pour le coup, plus que parfaite. J'ai la protection solaire, le livre, les lunettes de soleil, donc c'est bon.
Un tableau paradisiaque, pas de vendeur de glace ni de chouchou, des mouettes silencieuses et des vagues, très calme.
Moi, c'est Manu. Bah, torse nu à la plage. Moi, je travaille dans l'hôtellerie, donc on a déjà d'angle les restos ouf pour pouvoir bosser. On prend quelques couleurs qu'on ne pourra plus prendre après quand le boulot va reprendre. Même si on est breton, on craque quand même l'eau froide aussi.
Pas du tout frileuse, Manon s'est jetée dans l'océan, en maillot.
C'est la première de l'année déjà, je suis assez fière. C'est frais, c'est vivifiant, ça fait du bien. Pour le moral, le corps, ça dynamise.
Pour ceux qui recherchaient de l'ombre, la forêt derrière la plage était un excellent refuge.
Nicolas Bobby.
L'histoire du jour.
On a commencé ce journal par un chauffard trahi par ses vidéos. Et bien, on va finir avec un autre champion, un mafieux italien recherché depuis 2014. Il était caché en République dominicaine et pour combler son ennui, il proposait des recettes de cuisine sur sa chaîne YouTube sans montrer son visage, bien évidemment. On ne voyait que ses mains et ses avant-bras. Le naïf, ses tatouages l'ont trahi. Marc Ferren, Claude Billard, c'est son nom, 53 ans, a été interpellé. Il pourra toujours faire des pizzas en prison.
Moi, ça me le rend sympathique. C'était le journal de Jérôme Florin. Dans un instant, les fake news. Et puis, on va aussi retrouver Michel Simès pour nous dire comment fonctionne l'autotest d'effort.
RTL, toujours avec vous. RTL Matin, 7h-9h30.
Parfaitement, 8h15. Allons traquer les intox et les fausses informations avec vous Jean-Mathieu Pernin, bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, ben non, les vaccins ne sont pas à l'origine de l'apparition des nouveaux variants du Covid.
Oui, alors oui, c'est vrai, enfin, on dit ça comme ça, mais Yves, comment expliquer l'explosion des variants anglais et sud-africains pile au moment où ont commencé les campagnes de vaccination? Bizarre quand même. Hein. Des publications partagées des milliers de fois sur les réseaux sociaux défendent cette théorie. Les vaccins créent les variants, ce qui n'a bien sûr aucune assise scientifique. Mais c'est pas grave, hein. On continue à l'affirmer en parlant de futures bombes épidémiologiques à chacun en fait son propre variant. Alors les vaccins contre le Covid-19 ne fabriquent pas le variant, confirme Olivier Schwartz, hein, responsable de l'unité virus et immunité à l'Institut Pasteur.
Merci de nous le rappeler, oui.
Dans le journal Sud-Ouest, oui. On peut s'inquiéter de l'efficacité sur les futures mutations du virus. Quant aux amateurs de fans de frises chronologiques, ils sont nombreux, il est bon de noter que le variant britannique est apparu environ 2 mois avant le début de la campagne de vaccination en Grande-Bretagne, début décembre. Et son parent brésilien est né dans une région où le virus a circulé très violemment, bah oui. Donc aucune relation avec les vaccins.
Et certains scientifiques appuient cette théorie ?
Bah oui, c'est le cas d'un scientifique flamand, Gert van den Bosch. Voilà, alors il se présente sur son compte Twitter comme un consultant indépendant en vaccination. Ah, il y a oui. beaucoup en ce moment. moment, hein, dont une lettre adressée aux instances sanitaires internationales est très partagée, dans laquelle il évoque des variants provoqués par la vaccination de masse, a été partagée donc des milliers de fois. Sa théorie voulant que les vaccins amenuisent l'immunité naturelle ne tient absolument pas, puisque les vaccins s'appuient sur le système immunitaire pour compléter l'immunité innée. Autre théorie, les vaccins seraient plus contagieux, les vaccinés pardon, seraient plus contagieux que les non vaccinés. Alors ça, c'est l'idée d'Alexandra Henrion-Côte, qui est généticienne et ancienne directrice de recherche à l'INSERM. Elle a fait cette déclaration à Télé Liberté, qui est un site d'extrême droite, en janvier dernier. Alors des propos contredits par de nombreux scientifiques, bien sûr, et par Alain Fischer lui-même, le président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale en France. Interrogé le 26 mars par l'AFP, il explique que c'est exactement l'inverse en fait, de ce que propose la vaccination, c'est-à-dire se protéger et protéger les autres, mais pas désintox apparemment.
Alors des anti-vaccins qui multiplient les théories les plus folles, évidemment.
Voilà, même si nous avions eu droit, vous en souvenez, à la 5G dans les vaccins, les anti-vax radicaux se replient actuellement sur des théories comme les vaccinés sont plus contagieux, car malgré leur offensive, bizarrement, l'adhésion à la vaccination progresse. 59% des Français aujourd'hui, contre 45% en décembre. Il faut donc taper plus fort et voir ce qui se passe, et ne pas partager surtout, et toujours un geste barrière efficace.
On aura donc pris un temps infini à démentir n'importe quoi, ce qui fait que je vous donne rendez-vous dès demain matin.
À demain, bien sûr.
À demain, Jean-Mathieu.
RTL Matin, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Bonjour Michel.
Bonjour Yves.
Ce matin, vous vous intéressez à notre cœur et vous nous proposez de pratiquer un autotest d'effort.
Oui, la différence entre le test d'effort et l'autotest d'effort, eh bien, c'est que le premier, vous le faites chez le cardiologue et le second, vous le faites à la maison. Alors, on ne va pas se raconter d'histoire, les deux tests n'ont rien à voir, le premier étant conduit par un professionnel, mais quand même, en effectuant un autotest d'effort, vous disposerez d'une indication sur la forme de votre cœur et ça pourra vous inciter à consulter en cas de doute.
Bon, alors allons-y pour le modus operandi de cet autotest d'effort à la maison.
Alors, première étape, vous prenez votre pouls durant une minute. Oui. Il faut le faire au repos, c'est-à-dire en n'ayant accompli aucun effort particulier depuis au moins 10 minutes. Trouvez la bonne artère, celle du poignet ou celle du cou et comptez pendant une minute. Oui. Ça, tout le monde sait faire. Quand c'est fini, vous notez le résultat. Deuxième étape, vous faites 30 flexions. Bras tendus, les jambes bien ancrées au sol, dans le prolongement du bassin, donc un petit peu écartées, en 45 secondes.
Ah oui.
Dès que vous avez fini, vous prenez votre pouls pendant 10 secondes et vous multipliez le résultat trouvé par 6. Comme ça, ça fait sur une minute et vous le notez.
Alors attendez, je récapitule. Le premier chiffre, c'est celui de la fréquence cardiaque au repos et le second, c'est celui après l'effort.
Voilà, et vous allez devoir noter un troisième chiffre, Yves, parce qu'une minute après avoir terminé vos flexions, vous reprenez votre pouls pendant 15 secondes et vous multipliez le résultat par 4 et vous le notez. On fait quoi avec ça? Les trois chiffres, vous les additionnez. Ensuite, vous retirez 200 et vous divisez par 10. Tout ça, ce sera sur le site RTL.fr. Et là, miracle, vous allez obtenir un chiffre compris entre 0 et 15. Oui. C'est ce qu'on appelle l'indice de récupération. Et c'est ce chiffre qui va vous permettre de vous éclairer sur l'état de votre petit cœur. Vous avez bien suivi. J'en viens donc à l'interprétation du résultat. Vous allez voir, plus le chiffre final est élevé, et ben plus vous devez faire attention. Si votre résultat est compris entre 0 et 5, votre cœur est a priori en parfait état de marche. Bien. Si votre résultat est compris entre 5 et 10, ça passe.
D'accord.
Mais plus vous vous rapprochez du 10, moins ça passe. Ah. Vous avez besoin de muscler votre cœur et pour ça, il n'y a pas mille solutions. Il y en a une, faire un peu de sport.
Et si le résultat dépasse 10?
Alors là, entre 10 et 15, vous devez prendre conscience que votre cœur est fatigué. Et un cœur qui fatigue, ça n'est pas l'organisme qui lui aussi trinque. Donc là, le sport, ça n'est plus une option, c'est une quasi obligation. Et ce serait pas mal de consulter pour savoir à quel point il est urgent pour vous de vous remettre à bouger un peu.
Ben, je crois que vous avez été clair et je vous dis à demain.
À demain.
Les Français gardent le moral en dépit de la pandémie. L'INSEE vient de publier ses statistiques. Nous nous intéresserons dans un instant à l'épargne des Français avec Éric Vanier du service économique d'RTL. Qu'allons-nous faire de ce magot? La réponse d'Éric Ayer, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE et membre du Haut Conseil des finances publiques. À tout de suite sur RTL.
RTL Matin, 7h-9h30, avec Yves Calvi.
Et à 8h23, nous allons parler économie et morale des Français. Bonjour Éric Ayer.
Bonjour.
Vous êtes directeur du département analyse et prévision de l'OFCE et membre du Haut Conseil des finances publiques. Merci d'être avec nous ce matin. Auparavant, nous allons revenir avec notre brigade de l'actualité sur le bas de laine des Français qui gonfle depuis le début de la pandémie. Et ce magot dormant fait des envieux du côté de Bercy. Bonjour Éric Vanier.
Bonjour.
Combien de milliards sont venus grossir ce bas de laine?
Alors 130 milliards l'an dernier, plus 70 milliards cette année, selon les projections de la Banque de France. Total donc 200 milliards, c'est-à-dire deux fois le poids du plan de relance, c'est énorme. Mais n'en déduisez pas que tout le monde a mis de l'argent de côté. Mmh. Cette surépargne est concentrée chez les 20% de ménages les plus aisés. Les autres, et notamment les salariés en chômage partiel ou en chômage tout court, ont vu leur revenu baisser et n'ont pas pu vraiment épargner. C'est donc un problème de riches, ce bas de laine qui explose.
Pourquoi ont-ils préféré garder leur argent ?
D'abord parce qu'ils ne savaient pas trop comment le dépenser. C'est compliqué en période de confinement ou de semi-confinement. Et puis surtout, par prudence, par précaution, quand l'avenir est incertain, on se protège en épargnant.
Alors, ils sont où tous ces milliards qui n'ont pas été dépensés, même physiquement, si je puis dire ?
Alors la plupart du temps, tout simplement sur des comptes courants, 90 milliards, ils sont restés plantés sans bouger depuis un an. Beaucoup aussi sur le livret A, plus de 26 milliards de collectes l'an dernier, c'est un record. Mais assez peu, c'est vrai, dans des placements directement connectés aux circuits économiques, type plan d'épargne en action.
Alors justement Eric, c'est la problématique du gouvernement, essayer de réorienter ces milliards qui somnolent vers l'investissement et la consommation.
Oui, alors pour inciter les Français à investir, Bruno Le Maire s'est déjà engagé à ne pas alourdir la fiscalité sur les placements financiers. Et pour stimuler la consommation, Bercy réfléchit à faciliter les donations des parents vers leurs enfants ou petits-enfants en franchise totale d'impôts jusqu'à 20 000 euros.
Tous ces milliards non dépensés, c'est vraiment de l'argent qui ne sert à rien ?
Non, il faut nuancer. De l'argent qui dort profondément, ça n'existe pas en fait. Les sommes énormes stockées sur les comptes courants renforcent les fonds propres des banques et leur permettent ainsi d'accorder plus facilement des prêts aux entreprises. Et l'épargne du livret A qui s'envole permet, via la Caisse des dépôts, de financer la construction de logements sociaux et les projets d'investissement des collectivités locales. Pas un centime, vous voyez, ne se perd vraiment.
Merci beaucoup Eric Vanier de notre brigade RTL. Et un Eric peut en cacher un autre. Rebonjour Eric. Hier, je rappelle que vous êtes directeur du département analyse et prévision de l'OFCE et membre de notre Haut Conseil des Finances Publiques. Qu'est-ce qu'on en fait de nos 200 milliards avec hier ?
Oui, alors d'abord, il faut préciser, est-ce qu'on peut qualifier ça d'épargne ? En fait, c'est plutôt une consommation empêchée. C'est-à-dire qu'on empêche aujourd'hui encore un certain nombre de personnes de consommer. On ne peut pas partir encore à l'étranger, on ne peut pas partir en vacances, on ne peut pas aller au restaurant, on ne peut pas aller... Donc vous voyez, ce n'est pas une réelle épargne.
Au minimum, c'est une épargne contrainte, c'est ce que
Exactement.
Vous voulez dire.
C'est une épargne contrainte. Et donc, la question est donc pour 2020, c'était typiquement une épargne contrainte. Aujourd'hui, on est encore en épargne contrainte. C'est-à-dire que globalement, on ne peut pas encore consommer comme on le souhaite. Et donc, la question, c'est une fois qu'on aura tout levé, est-ce qu'il y aura un comportement réellement d'épargne ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire de cette épargne contrainte ? Est-ce qu'on la transforme réellement en épargne ? C'est-à-dire que ça, c'est un vrai choix. Je ne veux pas aller consommer alors que j'ai la possibilité. Ou est-ce que je vais consommer massivement ? Mais on n'est pas encore là-dedans. Donc, parler aujourd'hui d'épargne est peut-être encore un tout petit peu prématuré.
Si les Français se retrouvent, enfin si nous retrouvons finalement une vie normale, peut-on imaginer que nous soyons un peu plus égales avec notre épargne ?
Alors sans doute un peu. Vous voyez que, un autre point, c'est-à-dire qu'on le voit dans tous les grands pays. Hein. Ouais. Vous voyez, en gros, ça représente, si on regarde en taux d'épargne, à peu près 10 à 12 points d'épargne supplémentaire par rapport à votre revenu.
C'est énorme.
C'est gigantesque. Oui. C'est gigantesque. Vous voyez, normalement, le taux d'épargne, il est aux alentours de 14%. Bah là, il est monté aux alentours de 24%. Et ça, on le retrouve dans tous les pays. Ça monte même à 25 points d'épargne supplémentaire aux États-Unis, 18 au Royaume-Uni. Donc, c'est un comportement qui est à peu près général dans tous les pays. Donc, ensuite, qu'est-ce que l'on va en faire ? Donc effectivement, c'est très important. Vous voyez, alors, c'est un mot un peu fourre-tout, la confiance. C'est-à-dire que si on vous dit demain, la crise, ou même aujourd'hui, la crise sanitaire est encore devant nous, et pas complètement terminée. Si on vous dit demain, on va devoir réduire le modèle social, on va réformer les retraites, il y en aura moins pour votre retraite, il y en aura moins pour votre chômage. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez épargner aujourd'hui. Vous allez dire attention. Si on vous dit demain, la crise sociale est devant nous, le chômage va augmenter. Donc vous voyez, c'est très important aujourd'hui comme mesure, c'est de dire non, la crise sanitaire, on la maîtrise. Dans deux mois, elle est terminée parce qu'on a vacciné et le modèle social ne sera pas remis en
cause. Je suis frappé par ce que vous nous dites parce qu'on se plaint toujours du fait que cette épargne ne soit pas productive pour nos entreprises. Je ne vous parle pas de boursicoter. Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour diriger cette épargne vers les entreprises ?
Alors là, vous voyez, vous pouvez.
J'ai l'impression qu'on est aux antipodes de la mentalité française.
Oui, mais on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Ah, vous voyez, c'est-à-dire que globalement, en gros, globalement, ça a été dit par l'autre Eric.
Par
c'est-à-dire que globalement, cet argent-là va bien servir à quelque chose. C'est-à-dire, soit il retourne dans la consommation, et donc là, mais ça va être un boom gigantesque de la consommation. Soit il est placé dans des entreprises, c'est-à-dire dans des investissements, donc super, elles ont un problème de fonds propres, mais effectivement, c'est pas tellement la mentalité française. La mentalité française, ça va être sans doute de le redonner à l'État en achetant de la dette publique.
Alors, on se plaint, est-ce qu'il y a, comment dire les choses, est-ce qu'il y a une dimension psychologique positive de savoir que ce magot existe? Vous comprenez ce que je veux dire?
Ah ben, oui, en tout cas, alors ça a été bien dit aussi par Éric Vanier, c'est-à-dire que globalement, tout le monde ne l'a pas, hein, attention. Et alors, c'est les 20% des ménages qui disposent de 70% de cette épargne, pas de l'intégralité, et les 20% les plus modestes ont même dû désépargner pendant cette crise, pendant cette pandémie, et donc attention aux inégalités qui vont naître. Mais effectivement, ce magot-là existe, et donc c'est en cela, il faudra bien s'attendre à une utilisation de cet argent-là, et donc c'est pour ça que les perspectives sont un peu pessimistes, me semble-t-il, par le FMI, par l'OCDE, parce qu'on dit cet argent reste là et on n'en fait rien. Non, il va bien y avoir une utilisation.
Un tout petit peu de projection là encore, peut-on imaginer des changements dans la consommation post-pandémique?
Sans doute.
Et ce qu'il vient de dire, est-ce qu'on a changé de civilisation d'une certaine façon?
Alors, c'est peut-être là, pour le coup, un changement de civilisation est peut-être un terme un peu fort, mais globalement, oui, on va sans doute changer notre façon de consommer. Alors, c'est très compliqué à anticiper et oui, ça va être des tendances longues et lentes, mais globalement, oui, on se rend bien compte pendant ce confinement qu'il y avait de la consommation un peu superflue. On se rend bien compte que globalement, on peut faire des choses un peu plus compatibles avec la transition écologique. Donc, oui, je pense que c'est le moment d'essayer de changer un tout petit peu, mais ça va être des changements relativement mineurs, encore une fois, sauf s'il y a de la réglementation, c'est-à-dire que si les gouvernements incitent plutôt à tel type de consommation que tel autre, et donc là, vous avez l'arme de la fiscalité, des bonus-malus, pour essayer de globalement aller essayer de faire une transition de cette épargne vers une consommation qui est plus verte ou un investissement qui serait plus vert et plus vertueux.
Donc l'épargne, ça s'oriente avec les impôts?
Aussi. C'est-à-dire que la fiscalité est importante, bien sûr, mais la fiscalité ne veut pas dire toujours en augmentation. C'est-à-dire que vous pouvez faire une augmentation pour un certain nombre de produits, une baisse pour d'autres, pour essayer effectivement de donner un signal prix à l'épargnant, de dire, si tu veux gagner un peu plus d'argent avec ton épargne, va plutôt vers cet élément-là que vers celui-ci.
Merci beaucoup Éric Ayer d'avoir pris la parole pour nous éclairer ce matin sur RTL. Vous êtes directeur du département analyse et prévision de l'OFCE. Dans un instant, notre météo à 7 jours avec Louis Baudin. Pour l'instant, c'est parti pour être pas mal. Hein.
Encore au début, oui.
Oui, quelques mois. Ah oui, d'accord. Oula. À tout de suite.
Bonjour, c'est Laurent Marcy.
Laissez-vous tenter.
Venez découvrir un phénomène de librairie au rayon jeunesse qui vient de fêter ses 10 ans d'existence. Une bande dessinée qui bouscule les codes et les traditions. Elle s'appelle Akissi. C'est un petit Nicolas au féminin dont les enfants raffolent des aventures dans le quartier d'Abidjan où elle habite en Afrique et où elle est née. Africa, unite. Tout à l'heure, dans Laissez-vous tenter, la maman d'Akissi, Marguerite Aboué, viendra nous raconter 10 ans d'une folle aventure, 10 ans à vouloir changer les regards sur son continent.
Moi, je suis arrivée ici, j'avais 12 ans. Quand je rentre en 6e, je m'aperçois que tous mes nouveaux copains ne savaient rien sur ce continent. En fait, c'est parti de là.
Rendez-vous tout à l'heure, 9h, sur RTL.
Laissez-vous tenter.
RTL Matin. Il est 8h34. Alors Louis Baudin, j'ai cru qu'on était parti vers des perspectives qui restaient souriantes. Ça n'est pas vraiment le cas. Vous m'avez même suggéré l'idée qu'on allait passer de l'été à l'hiver.
Mais oui, c'est incroyable quand même.
Expliquez-vous sur
RTL. Je regarde les modèles de prévision qui servent à faire cette évolution, ces prévisions pour les prochains jours. Effectivement, ils confirment à partir de dimanche et surtout le début de semaine prochaine un changement brutal. Effectivement, là on connaît des températures quasiment d'été, au moins l'après-midi, mais ça reste frais le matin. Encore aujourd'hui, on dépassera les 22, 23 degrés quasiment partout. On dépassera même parfois les 25 degrés, tout ça avec du grand soleil. Demain, c'est la même chose, grand soleil. Peut-être un peu plus de nuages sur les reliefs de l'Est entre le Jura et les Alpes, mais c'est tout. Toujours donc de la chaleur l'après-midi, la fraîcheur le matin. Vendredi sera une journée intermédiaire avec encore du soleil, mais peut-être quelques averses près des reliefs et surtout des températures qui redeviendront un peu plus raisonnables. Et puis ce week-end, on va perdre facilement 10 à 12 degrés par rapport à ce qu'on connaît en ce moment. Il restera encore un temps sec et ensoleillé. Et puis deuxième vague de refroidissement à partir de lundi, où là, on attend des gelées, on attend de la neige peut-être en pleine, des giboulées, des températures qui
sont... De la neige en pleine ?
mais oui, qui ressembleront à celles de février. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est incroyable. Et là, pour l'instant, tous les modèles, ils sont tous d'accord. Donc, on s'attend à un refroidissement très net à partir de lundi ou mardi, avec des précipitations sous forme de neige à basse altitude.
Donc, sortez vos moon boots, des
donc,
bonnets.
On les range pas tout de suite. Enfin, on reste vigilant. Voilà, on en reparle demain matin.
La vigilance. Donc, le tournant, c'est lundi ou mardi, j'ai pas...
C'est lundi.
C'est lundi. Très bien. Lundi. Voilà, vous vous préparez un peu de fraîcheur, peut-être en début de semaine prochaine. Tout ça va être suivi par
De près, hein, je vous le dis.
Et de très près. Merci Louis.
RTL, vous êtes comme ça.
Ce sont peut-être de futurs concurrents de Top Chef que vous allez découvrir ce matin dans Vous êtes comme ça. Nous vous proposons une immersion dans un concours de cuisine au lycée hôtelier Sainte-Anne. C'est à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. Un concours aussi bien en cuisine qu'en salle entre les jeunes talents de Bretagne par équipe de trois avec un chef, un commis et un serveur. Bonjour Patrice Gabart.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Cette finale entre trois lycées hôteliers, Dinard, la Guerche de Bretagne et Saint-Nazaire, c'est aussi une très belle manière de s'illustrer pour ces élèves qui n'exercent plus depuis des mois sur le terrain en raison de la Covid.
Oui, car la passion du métier est intacte chez eux malgré la fermeture des restaurants. Lisa de Congan, chef de l'équipe de la Garche de Bretagne.
Pour moi, ça fait depuis toute petite, je suis passionnée par la cuisine et puis je suis entrée dans le lycée hôtelier de la Garche. Avec les stages, ça m'a vraiment confirmé que j'étais faite pour ça, quoi.
À l'arrivée en cuisine, c'est d'abord le déballage du petit matériel personnel. Couteau, mandoline, fouet, passoire chinois et planche à découper sous les yeux de François L'Enfant, ancien restaurateur et membre du jury.
Ce qui cloche, c'est qu'ils commencent par poser leur mallette qui viennent de l'extérieur, qu'ils ont posé par terre, ils les posent sur leur plan de travail, là où ils vont poser les aliments après. Donc là, il peut y avoir des contaminations, bien sûr. C'est primordial dans nos métiers, et en plus, en ces périodes compliquées, d'avoir une hygiène irréprochable en cuisine.
Plus de peur que de mal, finalement, puisque tous désinfectent leur plan de travail avant de se lancer dans la préparation d'un carré de porc, thème du plat principal. Isaline Toal, chef de l'équipe de Saint-Nazaire, est déjà au four.
Là, je suis en train de colorer la viande. Quand je vais la cuire en croûte de sel, elle va garder tout son jus et être très moelleuse. Je l'ai farcie avec des langoustines qui ont été marinées au whisky. Je l'arrose aussi pour lui donner du jus, pour pas qu'elle sèche.
Pour la Garche de Bretagne, c'est un carré de porc farci avec une mousseline de persil et d'estragon, accompagné d'une tartelette à betterave farcie, d'un siphon de chou-fleur gratiné et des oignons de Roscoff confits avec un duo de pavés de butternut et de chou-rave cuit à l'étuvée. Même Nicolas Caro, chef étoilé de l'hôtel de Carantec dans le Finistère, est impressionné.
Ça montre que dans leur métier, ils se démènent et puis ils vont repousser un peu leurs limites, quoi. Il y a vraiment l'idée, il y a la créativité et il y a l'envie de bien faire.
Et tout cela dans le calme, pas un mot plus haut que l'autre en cuisine, preuve d'une belle sérénité chez ces jeunes apprentis cuisiniers.
Très appétissant tout ça, j'aime beaucoup les langoustines marinées au whisky notamment. Et pour le service en salle, Patrice, en quoi consiste ce concours ?
Il s'agit d'abord de dresser une table pour deux personnes avec une composition florale réalisée sur place. Aurélien Mal, en terminale bac pro à la Garche de Bretagne, a choisi un décor noir et blanc qui rappelle le Gonadu, le drapeau breton.
C'est vrai que la salle est souvent oubliée. Hein. Les concours à la télévision, c'est plutôt Top Chef, etc. On ne connaît pas trop la salle, mais c'est également tout un métier, les connaissances qu'on a sur les produits, etc. C'est vrai que les gens parfois l'oublient. L'accord mets vins, par exemple, on l'apprend au lycée, on a des cours sur les vins, etc.
Cela fait partie justement de la deuxième partie de l'épreuve dans le service en salle, où les candidats doivent présenter le plat, expliquer le choix des vins et découper le carré de porc au guéridon. Dans le même temps, en cuisine, Léo Lebar, le commis de l'équipe de Dinard, vient de terminer le dessert, deuxième et dernier plat du concours, sur le thème de la pomme 100% consommée.
C'était des pommes au four mixées avec une meringue et une crème fouettée. On a fait un dôme avec un glaçage chocolat blanc, beurre de cacao et après on a rajouté des pétales de granit dessus.
Mais la pression monte pour les retardataires.
Et il va falloir en lâcher, on va pas pouvoir attendre 30 minutes pour envoyer votre dessert. Allô ?
Sans rien laisser paraître de son stress, Lisa de Concan, chef pour la Garche de Bretagne, met la dernière main à une tartelette croustillante au sarrasin recouverte d'une tranche de pomme en pétales de fleurs. Un très joli dessert pour un sacre mérité.
Cette année, c'est la Garche de Bretagne.
Nicolas Caro.
C'est un très beau travail. Voilà, c'est des jeunes, il y a de la recherche, il y a du travail. Je pense qu'ils ont mis beaucoup de pression aussi, c'est pas évident. Ils ont vraiment été jusqu'au bout de leurs choses et c'est le principal.
Pour la troisième année consécutive, c'est une équipe mixte qui gagne les jeunes talents de la restauration avec une femme en numéro 1.
Merci beaucoup Patrice Gabart, on est rassuré, la relève est bien là pour la cuisine française. Bravo à tous ces jeunes talents bretons, on les attend de pied ferme dans Top Chef chez nos amis de M6.
RTL Matin, la face cachée de la une.
Il est 8h40 et Alexandre de Saint-Aignan, vous nous parlez ce matin de la peur du grand embouteillage dans les salles de cinéma.
En feuilletant les pages du Monde, je me suis fait une réflexion. Si la crise sanitaire était un bateau, quelque chose me dit que ce serait un gigantesque porte-conteneur qui se serait malencontreusement mis en travers d'un canal de Suez trop étroit pour lui. Et ça fait maintenant plus d'un an que les professionnels du cinéma le regardent impuissant, tenter sans succès de débloquer le passage. Sauf que, comme pour le canal de Suez, la sortie des films dans les salles est d'habitude réglée comme du papier à musique. Même si les productions ont été moins nombreuses l'an dernier, l'entonnoir est quand même bien rempli. Plus de 400 films attendent de faire sauter le bouchon et les distributeurs craignent que ces œuvres finissent complètement noyées dans la masse. On craint un massacre, prévient Jean Labadie de la société de distribution Le Pacte. Les films d'art et d'essai notamment ont peur que les blockbusters américains envahissent les écrans à la réouverture des cinémas, ne laissant que des miettes aux petits films d'auteur. Il faut absolument éviter de se cannibaliser, affirme encore Éric Lagesse, PDG de Pyramide Distribution, pas sûr que les producteurs puissent récupérer leur mise, surtout que la réouverture des salles de cinéma risque de se faire en trois étapes, avec d'abord une jauge de 35% des places pendant 4 semaines, puis 50% pendant un mois, et un retour à la normale souhaité pour le mois de juillet. Le maintien des couvre-feux pourrait également amputer les recettes des deux séances du soir. Une reprise progressive qui pourrait, à contrario, permettre au cinéma d'auteur de tirer son épingle du jeu, estime Le Monde. Les films à gros budget ne se risqueront pas à être diffusés devant des salles à moitié vides. Le nouvel OSS 117, par exemple, a repoussé sa sortie au 4 août prochain. Les studios hollywoodiens préfèrent garder leurs plus grosses cartouches avant de dégainer. Chez Disney, Black Widow est prévu pour le 9 juillet. Universal Pictures a repoussé la sortie du nouveau James Bond au mois d'octobre. Et puis Les Mignons 2 pourraient sortir l'année prochaine. Pour écluser une partie de leur stock, certains pourraient être tentés de se passer des salles de cinéma pour vendre leurs films directement aux plateformes ou aux télévisions. Mais ils sont encore peu nombreux à avoir franchi le Rubicon. Amazon Prime Video a acheté Pinocchio de Matteo Garonne. Netflix a acquis les droits de Madame Claude de Sylvie Verhaed. Les plateformes n'ont pas envie d'acheter des films d'auteur, assure la productrice Carole Scotta. Surtout que si les films ne passent pas par la case cinéma, les distributeurs pourraient être contraints de rembourser le crédit d'impôt et les aides qui leur sont accordées. Mais à ce sujet, le Centre National du Cinéma proposera une dérogation dans les prochains jours pour que ces aides soient finalement considérées comme des dons. La fermeture des salles pourrait également avoir des effets pervers. Canal+ a acheté le dernier film de Mai Wen, ADN, sorti au mois d'octobre. Et si l'on respecte la chronologie, la chaîne payante pourrait commencer à le diffuser à ses abonnés dès le mois de juin. Mais il est resté à l'affiche seulement 2 petits jours et son distributeur espère bien le diffuser à nouveau dans les salles à leur réouverture. Difficile d'imaginer qu'il soit en même temps à la télévision et au cinéma. Tout va donc devoir se négocier. Pour que les spectateurs puissent enfin retrouver leur cinéma et que le cinéma aussi survive à la crise sans trop y laisser des plumes, c'est à lire ce matin dans les colonnes du Monde.
Merci beaucoup Alexandre de Saint-Aignan. Dans un instant, on va retrouver Laurent Gérard et toute son équipe sur RTL. Bonne journée à tous.
7h-9h30, RTL Matin, Yves Calvi.
Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves Calvi.
Bonjour.
Bonjour Marie.
Bonjour Pierre, bonjour Yves. Alors, le syndicat étudiant UNEF est au cœur de la tourmente pour ces réunions dont les Blancs sont exclus. Réunion dont Marine Le Pen a été la première à dénoncer le racisme. Bonjour Marine Le Pen.
Bonjour madame. En effet, en tant que citoyenne du monde, je ne peux pas laisser passer ça.
Citoyenne du monde ?
Oui, c'est nouveau. Et alors, ça vous défrise ?
Non, non. Quoi, des réunions interdites aux Blancs vous dérangent ?
Elles me dérangent car en tant que citoyenne du monde, tous les humains sont mes frères, madame. Et en tant que femme blanche, je n'ai pas envie d'être séparée de mes frères. Oui. Les Renois, les Rebeux. Alors moi je dis non passarades les fachos.
Je vois, vous essayez de vous dédiaboliser pour 2022, c'est ça ?
Mais pas du tout madame, c'est ouais. Sincère. J'ai toujours été du côté des racisés. Tiens d'ailleurs, vous savez quelle est ma chanson préférée ?
Ah non, dites-nous.
Issu d'un peuple qui a beaucoup souffert, nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. Ah, ça vaut la coupe hein ?
Je crois que vous en faites un peu trop là.
Mais pas du tout. En 2022, je serai la présidente de tous les Français. Les Français de souche, autant que les métèques et les basanés. Oh, zut, je dérapais. Oh, c'est dommage, j'y étais presque.
Le ton ne cesse de monter entre la France et la Chine. Faisons le point avec le représentant officiel de la France en Chine, Jean-Pierre Raffarin. Bonjour Jean-Pierre Raffarin, ou plutôt ni hao. Jean-Pierre Tainting,
Bonne année du buffle. À vous aussi, mademoiselle Jade, mes trêves de courbettes, car l'heure est grave. Rien ne va plus entre nous et le vénérable guide de l'Orient rouge. J'ai nommé notre ami Xi Jinping.
On dit effectivement que le torchon brûle entre la diplomatie française et autrement dit, le secrétaire général du Parti communiste chinois.
C'est exactement ça, le torchon brûle entre nous. Et comme c'est un torchon chinois qui ne supporte pas la chaleur, cela émet des vapeurs de diméthyl fumarate, extrêmement corrosif pour l'amitié franco-chinoise dont je suis... Vous le savez, le gardien éternel.
Tout à fait. Tout a commencé par les insultes de l'ambassadeur chinois, Lou Shai, contre un chercheur français qui s'est fait traiter de hyène folle et de troll idéologique. C'est bien ça.
Oh, son excellence, Lou Shai, que j'appelle familièrement Lolo. Il est de Poméranie. A mille fois raison. Et... je rajouterais à l'encontre de ce chercheur français que c'est une chauve-souris diabétique, un rouleau de printemps ramolli et un poux neurasthénique.
Et comme le disait Confucius, ting cha chong ting niao, ring de tao. Autrement dit, vous avez choisi votre camp, celui de la Chine.
Mon camp est celui de l'amitié sincère et désintéressée pour mon ami Xi, grand timonier infaillible du Yangtze-Kiang.
Certains vous le reprochent en France. Il paraît qu'en Chine, on vous appelle le panda français.
Oui. C'est vrai qu'en Chine, on aimerait que, comme les pandas, je me reproduise davantage car j'apporte le savoir-faire français au pays de mon ami Xi. Je viens d'ailleurs de lancer une marque de prêt-à-porter franco-chinoise, Xiabi. Un vin populaire, le Xiravi. Et une chaîne d'hôtel-restaurant, Xidordine.
Merci pour ces explications, Jean-Pierre Raffarin, ou plutôt...
À vos souhaits. Et cette année, pour changer, n'oubliez pas d'acheter des œufs de Pâques chinois couvés avec un petit fœtus dedans pour amuser les petits et les grands.
C'est aujourd'hui la journée mondiale de la visibilité trans.
Taisez-vous !
Enfin, monsieur Finkielkraut, qu'est-ce qui vous prend ?
S'énerve.
Pardonnez-moi, mademoiselle, je suis un peu à cran.
Ah bon ? Mais qu'est-ce qui se passe ?
Je ne vois pas l'intérêt de consacrer une journée mondiale aux trans dans la mesure où on en parle déjà tous les jours !
Ah bon ? Vous trouvez ?
Mais enfin, ouvrez les oreilles. Les trans, c'est comme l'horoscope et la météo, on y a droit tous les matins. Et gna 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 gna, la visibilité est trans. Et gna gna gna, les acides gras trans. On habite plus en France, on habite en trans.
Bon, détendez-vous Alain, oui. Ce n'est pas si grave. Pourquoi les trans vous dérangent à ce point?
Parce que je n'ai pas envie de porter une robe et des talons.
Enfin, personne ne vous demande ça.
Mais si.
Mais non.
Si l'on n'y prend pas garde, ça viendra. Et je n'ai pas envie d'être réveillé un matin en sursaut par la brigade des trans qui menacera de me fusiller en m'appelant Aline parce que je refuse de m'épiler les mollets et de mettre du vernis à ongles.
Mais écoutez, ne vous inquiétez pas, ça n'arrivera jamais.
Vous serez peut-être moins affirmative le jour où la dictature LGBT vous greffera de force des testicules.
Oula.
Et remplacera vos soirées Tupperware de bonne femme par des soirées pizza foot entre couilles.
La tension est à son comble entre les États-Unis et la Russie. Joe Biden refuse la proposition de dialogue en direct à la télévision du chef d'État russe. Le président américain a d'abord traité son homologue de tueur, ce à quoi Vladimir Poutine a rétorqué « c'est authentique, c'est celui qui dit qu'il l'est ». Pour en parler, nous recevons John Rambo.
Putain, je comprends plus rien en géopolitique. Avant, c'était simple. Il y avait d'un côté les gentils ricains avec leur sourire flocaril, et de l'autre, des méchants communistes avec leurs couteaux entre les dents. Au milieu, tous ceux sur qui les ricains et les cocos y tapaient, les mangeurs de couscous, les bouffeurs de rouleaux de printemps. On y voyait clair, au moins.
Oui, et alors, John?
Maintenant, c'est Portnowak. Sleepy Joe, qui est pourtant tellement mou et vieux qu'on va lui installer un monte-escalier Stada pour grimper dans l'Air Force One. Il sent l'artillerie lourde contre Vlad dans le traitant de tueur. Et Poutine, qui a pourtant une tête à bouffer des enfants au petit-déj, il lui répond avec une phrase d'un gamin de CM2, « C'est celui qui dit qui est. » Comment veux-tu qu'on s'y retrouve? J'y comprends plus rien.
Alors, j'ai mis une hypothèse. Oui. Peut-être que Vladimir Poutine ne prend pas au sérieux l'apparente dureté de Joe Biden.
Tu veux dire que Vlad, il se moque de Sleepy Joe?
Je le crains.
Ne dis pas ça. Ça me rappelle un souvenir que j'arrive pas à me sortir de la tête.
Bon, bah racontez-nous, ça vous soulagera.
C'était du temps de la guerre froide. J'étais en mission secrète à Moscou avec mon pote Bobby. On devait infiltrer une équipe de nageuses. T'es pas mécontent de fréquenter des jolies sirènes russes en bikini, sauf qu'à cette époque-là, ils les chargeaient comme des mules, leurs sirènes. On est tombé sur des cachalots qui avaient des mâchoires de requin. Elles nous ont humiliés au bras de fer, les gamines.
Bon, bah, c'est pas très grave, ça.
Si, c'est grave.
Si, ah bon.
Parce que lorsque. Elles ont su qu'on était à Merloc. Elles se sont jetées sur Bobby et moi. Elles nous ont enlevé de force nos slips de bain. On s'est retrouvés tout nus à courir dans les rues de Moscou et les papas ils se moquaient de nous. C'était horrible. Alors je lui dis maintenant à Vlad, si tu continues à te foutre de notre gueule, on va te faire une guerre comme tu n'en as jamais vu. On va t'attraper et te noyer dans la baignoire à porte de Sleepy Joe.
Ben, en tout cas, avec vous, voilà, les relations internationales prennent un tour tout à fait particulier.
C'est peut-être international.
Et sympathique, oui, je vous en prie. Alors, merci à toute l'équipe. On vous retrouve sur le site RTL.fr. Oui. Et puis, demain matin à l'antenne.
Et ben demain.
À demain.
Voilà, à demain.
Et on vient de l'apprendre il y a quelques instants, c'est officiel. Emmanuel Macron prononcera une allocution ce soir à 20h depuis l'Elysée. C'est peut-être un tournant dans la crise du Covid. Donc, prise de parole du président de la République, Emmanuel Macron, tout à fait officiel depuis l'Elysée ce soir à 20h. Dans un instant, on parle panettone avec vous, Cyril Lignac. À tout de suite.
Oui, bah oui. Les idées.
Non, mais la vie continue. Hein.
Oui,
c'est
oui,
très
oui.
Important. Allez, à tout de suite.
RTL Matin. Yves Calvi.
Il est 8h56. Alors, cher Cyril Lignac, en attendant l'allocution officielle du président de la République ce soir à 20h, va bien falloir se restaurer un petit peu. Et puis, nos auditeurs, eux, ben, ils continuent de vous poser leurs questions sur le site rtl.fr/participer. Marie, cette fois-ci, nous écrit des arcs dans le bas. C'est dans le
dans
Var,
le
les
Var,
arcs
oui, oui.
Ah bon, très bien. Et elle nous dit, j'ai essayé plusieurs recettes de panettone, mais je ne réussis pas à avoir la mie filante et légère, comme dans ceux du commerce. Une astuce pour m'aider, Cyril ?
Alors, jouer. Déjà, le panettone, c'est pour resituer le débat, c'est une brioche fourrée de raisins secs, de fruits confits, de zeste d'agrumes qui est née en Italie et qui est vraiment la pâtisserie italienne que l'on mange. C'est un peu
familial, enfin.
Familial, notre brioche à nous. Sauf que la mie du panettone est beaucoup plus filée, beaucoup plus moelleuse, beaucoup plus tendre. Et c'est vraiment un parcours pour faire un bon panettone. Oui. Alors, il y a deux versions du panettone, bien entendu. Il y a le panettone qu'on fait dans les pâtisseries et le panettone qu'on va faire à la maison.
D'accord.
Celui que l'on fait dans les pâtisseries, pour le réussir, il faut que l'on ait un petit levain. C'est-à-dire qu'il faut qu'un pâtissier, un ami ou un Italien, on nous donne ce qu'on appelle un peu le bébé du panettone. C'est-à-dire ce petit levain qui va nous permettre de créer cette fermentation et de faire ce petit gâteau moelleux. Alors bien entendu,
vous êtes en train
de
dire gentiment, excusez-moi, à notre auditrice, bah, vous allez directement à San Remo.
Ouais, c'est ça.
Vous rentrez chez un boulanger, vous dites, bah, donnez-moi un petit morceau de
levain,
de levain pour pouvoir réactiver mon panettone.
Alors ça, c'est pour moi dans les pâtisseries, mais à la maison, on va le faire autrement.
J'entends bien.
Alors, ce qu'il faut pour le réussir, c'est déjà donc un bon levain. En deuxième, une bonne farine, très légère. Alors en Italie, ils ont une farine double zéro, que l'on peut acheter partout, qui est beaucoup plus légère et qui permet d'avoir un bon panettone.
Ça se trouve en France aussi, il faut juste regarder sur le paquet. Quoi.
Exactement. Mm-hmm. Des gros fruits confits et beaucoup de repos pour la pâte. Tout doucement, on la prépare. Alors je vous ai donné une recette familiale, bien entendu, qui n'est pas la grande recette traditionnelle du panettone. Donc dans un robot, on verse 250 g de farine, on met un sachet de levure de boulanger, où on va demander la levure chez le boulanger, 80 g de sucre, 120 g de beurre, 4 œufs et une pincée de sel. Et là, on pétrit. Ça va nous donner une espèce de pâte à brioche, comme on a nous en France. Et là, on forme une boule, une fois qu'on la pétrit, pendant environ 10 minutes, et on la laisse pousser. Ensuite, on la repétrit à nouveau pour la dégazer. On met à l'intérieur les oranges confites, les raisins secs. On peut y mettre du cédra ou du citron, ça c'est comme on veut. Mm-hmm. On peut aussi le changer. C'est-à-dire que Pierre Hermé, par exemple, le fait avec des pépites de chocolat. Mm-hmm. Et c'est hyper bon. Ça nous donne une brioche un peu légère, chocolatée. Ensuite, on refait une boule et on le met dans le moule à panettone. Un petit peu en papier. Là,
il est beurré, le moule à panettone ?
Oui, on le beurre. Mm-hmm. Et ensuite, on laisse gonfler une heure. Et après, on le beurre. Et au four à 180 degrés pendant 10 minutes. Puis, on le met à 150 degrés. Donc, on le baisse, on le cuit 40 minutes. Et ensuite, on le renappe de beurre. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il soit très beurré et très léger. Et ensuite, on le laisse refroidir. Et soit on y dépose du gros sucre cristal dessus. Pour que ça croustille, et puis on le mange comme ça.
Bon, ben voilà, la recette de panettone maison que vous propose aujourd'hui Cyril Lignac. Merci Cyril, à demain matin.
Merci.
Il est 9h.
RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Et à 9h sur RTL, le point de l'information avec Jérôme Flora.
Le gouvernement va-t-il faire sauter le tabou des écoles? Faut-il les fermer toutes? Comme l'an dernier, la question est au menu du Conseil de défense sanitaire qui s'ouvre à l'instant à l'Élysée. Et on apprend qu'Emmanuel Macron s'exprimera ce soir à 20h. Une allocution solennelle, tour de vis en vue, Olivier Bost.
Effectivement, le chef de l'État n'a pas attendu la fin de ce Conseil de défense sanitaire. La décision a été prise qu'il parlerait ce soir à 20h. La dernière intervention de ce type solennel, c'était le 24 novembre dernier, si on exclut les vœux à la nation. C'était alors pour annoncer des allègements de restrictions et l'objectif des 5000 contaminations. Alors bien évidemment, ce soir, le message sera tout autre. On est loin de cette situation. Il s'agit bien de nouvelles mesures de faire face à ce qui est communément reconnu comme une troisième vague. Hier soir, Emmanuel Macron et son Premier ministre Jean Castex se sont vus. Ils ont passé ensemble les différentes possibilités de la fermeture des écoles à un confinement bien plus strict dans les régions concernées. Nous allons donc vers un durcissement. C'est la seule certitude partagée dans l'entourage du chef de l'État. Mais comme depuis le début de l'épidémie, nous allons encore vivre quelques heures de spéculation. Souvent, la traduction des décisions présidentielles est douloureuse. Un proche d'Emmanuel Macron m'a résumé le défi de la journée il y a quelques instants. Faire simple et efficace ce soir.
Les précisions d'Olivier Bost. Merci Olivier. Un nouveau variant détecté à l'hôpital Mondor de Créteil. Il serait plus contagieux et moins sensible au vaccin. Il a essaimé en Île-de-France, dans l'Ouest, le Sud-Est et le Sud-Ouest du pays. Santé publique France a décidé de le classer dans la catégorie des variants à suivre. Et puis ce soir, le match Bosnie-France. Troisième et dernière rencontre des éliminatoires pour le Mondial 2022. Objectif pour les Français, conserver la première place de leur groupe. Match à suivre sur RTL et M6.